salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous enregistrons cet épisode un dimanche ou presque, puisque c'est le mercredi 1er mai 2019, ça fait bizarre. Je suis Guillaume Vendée et si vous découvrez Tech Café, c'est une émission hebdomadaire qui vous donne toutes les news dans l'univers de la tech qui vous permettent d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir partager un peu votre connaissance autour de la tech autour de vous. Pour cet épisode, comme pour la plupart des épisodes maintenant, je suis accompagné de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci, et toi ?
Très bien, comme je disais, c'est un peu déroutant ce 1er mai.
Bonne journée et bonne journée de repos.
Oui, ça fait du bien. Allez, petite confession, j'ai passé ma journée en pyjama, moi.
Donc, voilà. Mais c'est fait pas encore assez beau pour être en slip, c'est pour ça.
Exactement, donc je suis en pyjama, donc voilà. Heureusement qu'on n'a pas de live du coup, sinon vous me verriez en pyjama, j'aurais un petit peu honte. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc effectivement, Tech Café, une émission hebdomadaire sur la tech. Guillaume qui, alors je le précise parce que ça va avoir son importance derrière, n'utilise pas Facebook, parce qu'il pourra intervenir avec son regard extérieur, mais moins impliqué d'utilisateur, comme l'on le disait avant l'enregistrement de l'émission, mais on va quand même vous relayer la conférence Facebook. F8, là, la conférence annuelle axée plus développeurs en évolution Facebook de la plateforme. On a toute une rubrique intitulée par Guillaume Poggiaspala Fruit bien défendu, qui évidemment, comme vous l'avez compris, tourne autour un petit peu d'Apple, mais aussi des échos autour des infos qu'on avait eues sur les modems 5G pour les appareils avec Intel, Qualcomm. On va revenir là-dessus. Des petites infos sur la mobilité aussi. On va revenir sur le sujet. Peut-être que tu auras des choses à compléter par rapport aux derniers épisodes où on avait avec Pierre-Olivier Diebmann échanger sur les annonces Tesla avec la puce et puis la vision du futur pour les appareils Tesla, les news en bref et des bonus, un programme bien chargé que je te propose, Guillaume, d'enchaîner très rapidement. Non, si, les incontournables quand même, avant je les oubliais et pourtant ils sont incontournables. Vous pouvez réagir à l'émission en commentaire sur techcafé.fr, vous pouvez discuter avec nous et entre vous sur le groupe Telegram, le lien est dans les notes de l'émission, et si jamais vous souhaitez participer au financement de Tech Café et aller un petit peu plus loin en vous engageant plus qu'un simple auditeur en participant financièrement à la publication de chaque épisode avec des toutes petites sommes à chaque diffusion, c'est sur patreon.com/techcafé. Et donc, sans autre forme de procès, on enchaîne avec une rubrique autour des annonces Facebook avec un mot d'ordre qui était très très clair, c'est the privacy. Est-ce que tu as vu, Guillaume, la conférence peut-être pas, mais moi j'ai vu en tout cas un résumé de conférence en 12 minutes, un montage de The Verge, et puis j'ai consulté plusieurs articles. Est-ce que tu as suivi un petit peu les annonces de manière générale, ou tu as suivi la vidéo ou pas ?
Écoute, moi je pense que je suis beaucoup plus au courant que toi, parce que mon cut avait 13 minutes.
Ah oui, alors effectivement.
C'est sur Engadget, donc tu vois, il doit y avoir
on va comparer, on va comparer nos cuts alors. En tout cas, il y a un message, un mot d'ordre qui était très présent, c'est privacy, privacy, privacy. We don't have the strongest reputation on privacy. C'est grosso modo, on n'a pas la meilleure réputation qui soit concernant la vie privée, le respect de la vie privée, et pour cause, on parle de Facebook. On le rappelle, hein, on a d'habitude le SFS, le scandale Facebook de la semaine, cette fois-ci, il n'y en aura peut-être pas. Ou en tout cas pas de manière aussi évidente. On va donc vous relayer un petit peu ce qui a été présenté par Mark Zuckerberg et sa clique sur scène. Donc un accent autour du respect de la vie privée, mais finalement ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de quelques accents autour du chiffrement qu'on savait déjà, il n'y a pas eu de nouvelles annonces tonitruantes autour du respect de la vie privée. Donc un mot d'ordre qu'ils s'approprient et qu'ils essayent de distiller tout du long, mais sur lequel je trouve, à mon sens, qui manque un petit peu de preuves, surtout compte tenu du terrain de réputation qu'il peut y avoir pour Facebook à la base. Bon, on va peut-être en toucher deux mots ensemble. Je vais essayer de récapituler rapidement les différentes annonces. Alors, on a déjà un nouveau design qui est intitulé FB5 ou FB5. Donc, c'est le design du site Facebook, hein, qui va changer sur nos appareils, qu'on va voir arriver dans les semaines et les mois à venir. Beaucoup plus épuré, il faut reconnaître qu'il est beaucoup plus joli. J'espère aussi qu'il sera plus léger parce qu'il est extrêmement lourd, l'interface de Facebook est extrêmement lourde à la base, avec une intégration plus notable autour des communautés. Oui, ils se rendent compte, Facebook, que l'évolution des liens entre amis n'est plus forcément leur fer de lance, et donc ils intègrent, mais je trouve assez intelligemment, des liens avec des communautés. Ils s'appuient aussi encore un petit peu plus avec les groupes au niveau de l'interface, ce qui a été le cas pendant un temps, ce qui a été réduit par la suite, et donc ce qui revient en force. et avec notamment une annonce autour du shopping. Donc il y a la partie marketplace hein, où on peut vendre à la manière du Bon Coin ses produits sur Facebook, qui marche pas mal, il faut le reconnaître, et où là aux États-Unis ils vont intégrer les services de livraison, où on pourra donc gérer de bout en bout la vente d'un objet à titre particulier sur l'interface de manière facilitée. J'en profite d'ailleurs pour dire que le paiement intégré au Bon Coin est arrivé. Je l'ai testé, c'est plutôt pas mal, le fait de se faire payer directement via le Bon Coin, ça évite pas mal de flou en termes de sécurité et parfois il y avait un petit peu des abus à ce niveau-là. Donc là, on sent que ça se professionnalise. Autre annonce autour de Facebook, il y a Facebook Dating, donc pour la rencontre. Si vous recherchez votre moitié, ce sera peut-être la plateforme vers laquelle vous pourrez vous tourner. Moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'on en avait déjà entendu parler de cette annonce il y a 5 ans à la précédente conférence et puis on l'avait dit durant les derniers épisodes de Tech Café, on n'avait plus trop de nouvelles. Moi, je pensais que c'était pas sorti. Et en fait, c'était sorti, mais dans certains pays. Donc, c'est dispo là en live actuellement déjà depuis un moment en Colombie, au Mexique, en Thaïlande, en Argentine et au Canada. Et là, c'est dispo désormais dans plusieurs autres pays. Et ça arrivera aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc, en tout, une 15aine de pays qui vont proposer Facebook Dating. Meet New Friends, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'aller rechercher des amis auxquels vous penseriez pas forcément, basés sur vos centres d'intérêt, sur votre localisation. Alors, on est tout disposé à les croire, mais a priori, ça se base sur des éléments sur lesquels on est explicitement opt-in en termes de décision, de partage d'informations pour retrouver des personnes. Ça demandera peut-être des éclairages sur le fonctionnement si un jour on en a, si un jour on peut en avoir, ce sera peut-être pas mal. Facebook, c'est aussi Instagram avec une nouvelle caméra pour les stories et une nouvelle interface qui est proposée par rapport aux stories avec un sticker de donation, donc pour permettre de favoriser les dons à des associations ou à des œuvres caritatives. Le nombre de followers d'un compte est un peu moins visible, les vanity metrics sont un petit peu remises au second plan, quoique elles sont pas encore non plus totalement disparues, elles sont juste diminuées. Il y a aussi les private like counts, donc c'est le fait de ne pas voir, et ça c'est en test, le nombre de likes d'une publication sur Instagram. Il n'y a que pour la personne qui diffuse la publication qu'il va pouvoir voir le nombre de likes, et encore avec une petite manipulation, donc la remontée encore une fois de vanity metrics par rapport aux publications est un petit peu dénaturée. Une fonction away mode pour dire que on veut prendre des vacances avec ces plateformes. Jusqu'à là, on avait des limitations de temps possibles en temps par jour de la plateforme Instagram. Là, on va carrément pouvoir dire je prends des vacances pendant quelques temps. Messenger qui va activer le chiffrement de bout en bout par défaut. Il était possible de l'activer, mais il n'était pas activé par défaut. Ce sera désormais le cas. On note aussi l'arrivée d'une application pour ordinateur sur Windows et sur Mac. L'app mobile a été intégralement réécrite, elle est plus rapide, plus légère, et on a eu des précisions quant à l'unification sur le plan technique hein, de l'interface, enfin justement pas de l'interface, mais du fonctionnement de la messagerie avec WhatsApp et Instagram pour Messenger en 2020. On attend d'en savoir là aussi un petit peu plus sur ce qui va pouvoir se passer au niveau de cette unification. WhatsApp pour business qui prend un petit peu de l'ampleur, je pense que c'est aussi une manière d'anticiper des évolutions qui pourraient venir des plateformes de messagerie asiatiques et notamment chinoises où il se passe beaucoup de choses. Hein. On peut faire sa vie sur ces plateformes de messagerie. C'est un petit peu la proposition du côté de WhatsApp, notamment pour le business, pour permettre d'avoir pas mal d'outils pour les pros et notamment les paiements. Il s'appuie sur des utilisations qui ont lieu actuellement en Inde, qui risquent d'être déployées un peu plus largement. Je termine avec les annonces matérielles avant de te faire réagir sur tout ou partie de ces éléments, Guillaume, avec Portal. Donc, c'est le Google Home avec écran, mais de Facebook qui va être lancé partout dans le monde. Vous allez pouvoir retrouver l'écosystème Facebook dans cette interface. Du côté de la réalité virtuelle, parce qu'Oculus ayant été racheté par Facebook, on a aussi les annonces du côté d'Oculus. Il y a les annonces, mais ça, tu vas revenir peut-être plus en détail sur l'annonce de la sortie d'Oculus Rift S, qui est plus rapide, plus puissant. idée d'Oculus Quest, dont on avait déjà parlé, avec une fonction qui me paraît fichtrement cool, que moi, je n'avais pas vue avant, c'est celle de la fonction casting. C'est-à-dire, vous mettez le casque de réalité virtuelle sur vos yeux, vous profitez de l'expérience, mais vous pouvez diffuser sur une télé ce que vous vivez. Et je pense que ça peut être un game changer pour la VR. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu un espèce de flash à ce moment-là. Guillaume, est-ce que tu as un point un ou plusieurs points à préciser ou à corriger par rapport à ce que j'ai listé peut-être un peu rapidement, et puis surtout qu'est-ce que ça t'inspire toutes ces annonces?
Bah, je vois que tu as oublié le Secret Crush, qui est probablement une des fonctions les plus importantes.
Ouais. Vas-y, je l'avais noté.
Et oui, le Secret Crush, c'est donc si vous aimez, si vous appréciez ou si vous kiffez, voilà, globalement quelqu'un, mais vous ne voulez pas que ça se sache, mais vous pouvez le dire à Facebook, parce que si ça se trouve, cette personne vous kiffe aussi, en secret. Et voilà, et bon, bah, donc si vous mettez tout au kiff secret sur Facebook, et bah, parfois il peut y avoir des matchs, et là, c'est la magie. Et j'ai trouvé ça très rigolo, assez mignon, finalement.
C'est très bon, Tinder, hein, soyons
clairs. C'est très Tinder, c'est contre... oui, tout à fait, mais c'est exactement ça, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a voilà, Facebook Dating et Secret Crush, c'est une sorte de mélange quoi, entre Tinder et je sais pas où, OkCupid. Et c'est pourquoi pas. De toute façon, comme tu disais, c'est vrai que bon bah la proposition, c'est clairement de plus jamais sortir de l'écosystème Facebook pour tout faire. Donc on a eu WhatsApp pour le boulot, on a Facebook qui se redesigne, sur lequel on peut acheter des choses, sur lequel on peut payer des choses. Bon voilà, il y a clairement cet écosystème global à la WeChat un petit peu qui commence à émerger, hein, comme on l'avait prévu et comme c'est assez logique. Et globalement, je trouve que tout ça, c'est plutôt cool, parce que je pense qu'en tant qu'utilisateur Facebook, il y a plein de raisons d'être assez content après toutes ces annonces. D'une part, Messenger qui devient une application normale, c'est-à-dire qui se lance en moins d'une seconde et qui prend pas 120 mégas pour juste un truc de messagerie, c'est pas mal quand même. Donc la cure d'amaigrissement de Facebook, de Facebook Messenger, donc est vraiment pas mal. L'application Facebook qui est redesignée via les groupes, je pense que c'est aussi une excellente chose. Après, voilà, hein, WhatsApp qui devient plus avec de nouvelles fonctions et un chiffrement de pas WhatsApp, Messenger avec un chiffrement de bout en bout, bon, tout ça c'est plutôt cool en fait. Moi, je trouve que toutes ces annonces globalement sont assez sympas. J'apprécie aussi l'effort pour si tu veux mettre moins en avant les métriques narcissiques quoi, qui sont un petit peu que j'ai toujours trouvé un petit peu toxique dans l'ensemble. Donc je trouve ça plutôt bien. Après, si pour être un petit peu moins... un petit peu plus critique, rien de tout ça ne change... Enfin, il n'y a pas grand-chose dans tout ça, finalement, qui change le problème de la vie privée, en fait. Alors, la vie privée, c'est le futur? Non, hein, la vie privée, c'est le présent, c'est le passé, ça a toujours été là, hein, faut revenir un petit peu quand même, voilà. Alors, c'est sûr que c'est très rigolo, parce que en 2010, Mark Zuckerberg, il disait exactement l'inverse. Mark Zuckerberg, il disait globalement, bah là, la vie privée, c'est has-been. Voilà, les gens, de toute façon, ils adorent poster des trucs, c'est super, permettons-leur de poster le maximum de trucs, et parce que, en plus, c'est bizarre, ça correspond tout à fait, c'est très très favorable à notre business model, bon, voilà. Là, évidemment, ben, après tout ce qu'on sait, évidemment, il faut faire un petit virage à 180 degrés, et donc, la vie privée passe au centre des préoccupations. Bon, c'est très bien, hein, attention, hein, mais, encore une fois, la plupart des fonctionnalités qui sont plutôt cool, les trucs qui sont plutôt cool, qui ont été ajoutés aux fonctions Facebook, est-ce que ça change vraiment fondamentalement les problèmes de vie privée qu'on pourra avoir à nouveau avec ces trucs-là? Je ne suis pas complètement certain, en fait. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de la manière dont le business model évolue, dans la manière dont les relations avec les développeurs tiers va se faire. Enfin, c'est pas si évident que ça que passer Messenger en crypté, ça va tout changer, ça va tout révolutionner quoi. Tu vois,
c'est des choses différentes déjà aujourd'hui en fait. C'est juste l'activation par défaut. Voilà. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça reste très incantatoire et les preuves ne sont pas là. aussi d'ailleurs la raison pour laquelle c'est tourné comme étant présenté que c'est le futur qui est dans la privacy, dans le respect de la vie privée, parce qu'ils savent bien qu'ils sont absolument pas en mesure de le prouver aujourd'hui. Que ce soit après tout l'orientation, je suis tout à fait disposé à le croire, c'est pas d'ailleurs par pure conviction, enfin il y a forcément une conviction derrière, mais il y a aussi le fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'ils veulent survivre, donc ils vont le faire, ça c'est clair, ça me semble évident. Par contre, il y a tellement eu des directions à l'opposé, comme tu le dis, depuis plus de 10 ans de Facebook, qu'il est extrêmement compliqué de ralentir la machine et de la faire pivoter. Moi, je pense pas qu'on puisse reprocher beaucoup à quelqu'un comme Mark Zuckerberg de reconnaître, même si c'est pas aussi explicite, qu'il s'est trompé. Après tout, qui disent rigoureusement l'inverse il y a 10 ans et qui disent aujourd'hui autre chose. Alors 10 ans en plus à l'échelle de la tech, c'est quand même une éternité, et qu'ils reviennent sur ces propos-là. Moi, ça me choque pas trop, et dans le fond, je peux tout à fait comprendre l'intention, mais ils continueront à payer encore un moment, je pense, les frais de leurs actions qu'ils ont menées pendant des années, qui ont été extrêmement lourdes. C'est-à-dire, pour qu'on ait un scandale par semaine, c'est bien que l'orientation était vraiment tout autre, et on le sait maintenant, elle était tout autre à l'intérieur de Facebook. Et donc, ça va être compliqué de prendre le virage. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher qu'est-ce qu'on pourrait vraiment leur reprocher par rapport à ces annonces? Allez, à la limite, on peut se dire que d'ici l'année prochaine, si on voit pas des choses se calmer au niveau des scandales et puis des nouvelles annonces autour du respect de la vie privée, on pourra leur en vouloir d'autant plus, non?
Oui, bah disons que le futur, si tu veux, qui se concentre sur les petits groupes, les amis proches, les choses un petit peu moins globales et comme ça en broadcasting, c'est vrai que c'est assez logique d'une part, c'est vrai que c'est la tendance quoi. Et puis c'est vrai que c'est l'évolution vers les types de messagerie un peu asiatiques, comme on l'a déjà dit plein de fois. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la vie privée, c'est-à-dire que WeChat, ouais, c'est raison. Absolument tout sur vous, vous faites tout dessus. Et c'est pas pour ça que, c'est fonctionnellement, ça peut être extrêmement pratique, hein. Vous pouvez trouver ça super de pouvoir tout faire au sein d'une même appli. Ça, je dis pas le contraire. Fonctionnellement, d'ailleurs, tout ce que propose Facebook me paraît très bien. Et même le portal, d'ailleurs. Je veux dire, si c'était pas Facebook et si on n'avait pas des gros doutes, bah, finalement, ça a l'air plutôt cool comme machine. C'est une sorte de gros visiophone, super facile à utiliser. Très fun, bon, un peu crétin, avec des filtres débiles où tu peux te mettre des oreilles de lapin, bon. Écoute, ça peut être fun quand même, tu vois. Mais, bon, tout ça, si tu veux, c'est bien, mais c'est pas parce que WeChat est super pratique à utiliser ou super, super intégré que, justement, au contraire, l'agrégation de toutes les données que vous pouvez donner à un service qui fait strictement tout, qui sait strictement tout, ne pose pas problème. C'est deux choses qui sont complètement séparées, quoi. Bon, après, écoute, on va leur laisser le bénéfice du doute, pour l'instant.
Voilà, ça fait un moment qu'on leur laisse, mais bon.
Oui, c'est pas faux. Mais là, si tu veux, c'était des mises à jour de logiciels. Ces mises à jour de logiciels, je les trouve plutôt bien. Bon, le portal donc va sortir dans le monde entier, comme tu l'as dit. Bon, voilà, je n'achèterai pas plus qu'autre chose, mais ça, c'est assez toujours moi. Et puis, ben, les casques de réalité virtuelle, oui, ben voilà, ils sont précommandés dès maintenant et ils vont sortir le 21 mai. Ils coûtent $400, donc 450 €, malheureusement, ici, avec les manettes.
Ça, c'est cool.
Et en fait, bah, globalement, le Rift S, c'est un update du Rift qui est bien, mais voilà, enfin bon, qui est quand même bien, parce que le tracking inside out, on a un petit peu plus de pixels, un petit peu plus, bon voilà, on est dans une évolution, hein, c'est vrai, ça reste toujours de la première génération VR. Le Quest, par contre, lui, a déjà été testé par pas mal de sites, et globalement, les réactions sont extrêmement positives. Le Quest est considéré comme une bonne machine, enfin c'est une machine qui est... qui est novatrice, hein, parce que c'est quand même la première console de jeux vidéo VR. Elle est complètement portable, tu peux l'amener chez tous tes potes, tu peux voilà, la montrer, la faire tester. C'est très facile d'utilisation. Alors bon, le truc c'est que c'est une console de jeu en gros, qui donc est assez chère, super sophistiquée, super cool, avec pas énormément de jeux. Et quand je dis ça, j'ai l'impression de parler de la PS Vita, ce qui m'inquiète un petit peu.
Ah, oui, je...
Mais bon. J'espère qu'elle aura le Quest aura un destin un petit peu différent.
Oui, à la limite, on peut imaginer qu'effectivement l'avenir soit peut-être plus glorieux pour l'Oculus Quest en termes de richesse de contenu que la PS Vita. On verra. Hein. Tu disais effectivement qu'on pouvait la transporter. Ils sont revenus un petit peu sur cet élément de cartographie, hein, et pareil, surtout tu me corriges si j'utilise pas les bonnes terminologies, mais la cartographie de l'environnement physique dans lequel on joue pour nous aider à améliorer l'expérience, et cette cartographie la garde en mémoire, et il est capable de la faire ailleurs si jamais on va dans une autre pièce pour jouer ou chez quelqu'un d'autre, et il revient, et quand on revient, enfin en gros ça le perturbe pas d'être dans des environnements physiques différents.
Je crois même que la calibration peut se faire dans plusieurs pièces, il retient plusieurs pièces, deux ou trois, je sais pas. Et de toute façon, au pire, la calibration ne dure pas très très longtemps, et ça fait effectivement une cartographie 3D de la pièce pour te permettre de te repérer sans capture externe.
Et la notion de cast, là, donc qui diffuse ce que voit en gros le joueur sur un écran, est-ce que c'est nouveau? Parce que moi, je l'ai découvert là, à la conférence, je ne l'avais pas vu avant cette fonctionnalité.
C'est une fonctionnalité qui n'était pas présente au début sur l'Oculus Go, qui elle est présente sur le Quest, je ne sais pas si elle sera présente sur l'Oculus Go aussi. C'était un truc dont avait parlé Carmack, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui au départ n'était pas présente sur le Quest, elle n'était pas prévue. Mm-hmm. Et puis ils se sont dit que si c'était possible, ça permettait d'être plus inclusif. Hein. Évidemment, tu vois ce que fait le genre, et donc ça permet de participer un petit peu plus, et c'est vraiment pas mal.
Ouais, ça change vraiment l'expérience, je trouve. Ok. On a fait le tour, je crois, des annonces Facebook. Donc, vous êtes un petit peu au courant des orientations et puis vous avez eu notre perception de tout ça, qui est à la fois enthousiaste sur le plan fonctionnel, réservé sur les promesses relatives justement à la vie privée, qui ne le serait pas, bien entendu. On enchaîne avec une autre rubrique qui fait un petit peu suite aux dernières news qu'on avait traitées dans les précédents épisodes de Tech Café. On avait parlé de l'enterrement de la hache de guerre entre Apple et Qualcomm à l'occasion de l'annonce d'un renouvellement de partenariat d'une certaine manière par rapport au modem 5G qui équiperont les iPhones dans les années à venir pour Apple et la fin de la production des modems 5G pour Intel. Ils arrêtaient les frais. Alors tu voulais revenir sur ces news puisqu'il y a plusieurs éléments qui tournent autour de ce sujet-là qui sont pas inintéressants, notamment des explorations d'échanges d'informations qui montrent qu'Apple avait mis en place quand même une stratégie qui était peut-être assez coercitive, j'allais dire.
Oui, c'est vrai. Oui, on va reparler de cette affaire Apple-Qualcomm. On a eu quelques infos, tu l'as dit cette semaine, hein, je reparle que donc, le choc des titans n'a pas eu lieu. Les deux monstres s'affrontaient depuis des années par procès interposé sur des affaires de licences, de brevets, etc. Et puis Apple, soudainement, a accepté un arrangement avec Qualcomm. Alors à l'époque, j'avais dit, et c'était corroboré par Bloomberg, qu'Apple n'avait pas d'autre choix parce que son autre fournisseur, Intel, arrêtait, pour des raisons pas complètement claires, le business de la 5G. Donc on pensait que la relation Intel-Apple allait pas bien, qu'Intel était pas à la hauteur, soit en termes de vitesse, soit en termes de calendrier. Et puis là, cette semaine, voilà Tipa qu'on apprend qu'en fait, c'est l'inverse. Intel est sorti du marché parce qu'Apple s'est rabibogé avec Qualcomm et pas l'inverse. Donc Apple était le seul gros client d'Intel là-dessus, c'était une division, c'est une division, la division 5G qui perd quand même $1 milliard par an, et donc sans Apple, ben, elle n'est pas viable. Donc l'été dernier encore, hein, ils auraient cherché un deal pour qu'Apple rachète la division 5G complète à Intel, donc les ingénieurs, les brevets, tout ce qui s'ensuit, les meubles, tout, voilà.
Ce qui doit représenter un fric monstre quand même.
Ce qui représente un fric monstre, mais on parle d'Apple, donc bon,
oui, bien sûr.
Voilà. Et donc Apple avait clairement l'intention de créer ses propres modems. Hein. Cette année encore, il débauchait du staff chez Intel, et donc un mec qui s'appelle Umashankar Tyagarayan. C'est un des leads 4G 5G. Il a travaillé sur les modèles 4G des iPhones en 2018, par exemple. Bon, pourtant depuis l'accord, hein, la division 5G se restructure sévèrement. Hein. Ruben Caballero, qui était à la tête, qui en était à la tête, et qui était quand même chez Apple depuis 14 ans, vient de quitter la boîte. Donc médiatiquement, nous, on le connaissait parce qu'il avait prévu l'antenne Gate de 2010.
Il avait tiré les fenêtres d'alarme.
Les iPhone 4 perdaient le signal selon la manière dont tu le tenais, à cause de choix d'antenne un petit peu hasardeux, quoi. Alors, pourquoi pas ne pas avoir poursuivi le procès avec Qualcomm? Alors, peut-être pour des raisons d'approvisionnement, peur que Intel soit pas à la hauteur en termes d'approvisionnement, comme on l'a dit, ou alors peut-être tout simplement parce qu'ils pensaient perdre. Alors, juste avant la fin prématurée, hein, de la procédure, Qualcomm a produit des documents qui ont depuis été diffusés. Donc, c'est des documents internes d'Apple qui datent pour certains de 2014 et qui détaillent méticuleusement comment mettre la pression, je cite, sur Qualcomm. En fait, deux ans avant que toutes les batailles de brevets commencent, hein, puis ça a commencé vers 2016, Apple avait un plan pour nuire à Qualcomm commercialement et financièrement, avant même que leur contrat ne prenne fin. D'ailleurs, c'était même un calcul. Donc, dans les documents, Apple reconnaît que le portefeuille de brevets de Qualcomm, il est très puissant, et qu'il est bien plus que celui de Nokia, ou de Huawei, ou même d'Inter Digital. Inter Digital, qui est une sorte de patent troll de son état, mais il faut pas le dire. On voit qu'il entend pressurer, Qualcomm en demandant à sous et sous-traitants, donc Foxconn et Winstrone, par exemple, de cesser de payer les royalties. Alors, manifestement, en sachant qu'il s'agissait d'un chemin risqué, tortueux et probablement illégal. Bon, la pression économique viendra donc avec le partenariat avec Intel. C'est plutôt l'opération commerciale même, je dirais. Apple a ensuite attendu 2016, à la fin de l'accord, pour provoquer une guerre des brevets. Et s'étant assuré par avance qu'il n'y aurait pas de problème d'approvisionnement via les sous-traitants. Parce qu'évidemment, il ne faudrait pas qu'il se retrouve le bec dans l'eau, le pauvre. Donc tout ça est écrit noir sur blanc dans des documents produits par Qualcomm. Apple reconnaît même les mérites des produits Qualcomm hein, à plusieurs reprises. Et c'est justement leur argument à Qualcomm pour justifier leur business model. Parce que, voilà, en gros, leur business model, c'est parce qu'on le vaut bien, qu'on vous fait payer à ce point. Donc bon, les avocats d'Apple n'ont pas eu le temps de répondre à cet argumentaire, donc ils passent un petit peu pour les méchants ici, hein, j'en ai conscience. Et c'est vrai que les documents montrent un plan qui a été mis sur pied pendant 4 ans, en utilisant tous les moyens et en connaissance de cause. Hein. Donc peut-être donc que c'était mal parti pour les juristes d'Apple, je sais pas. Cela dit, il faut bien voir qu'il n'y a ni gentil ni méchant ici. Hein. Qualcomm fait payer des prix exorbitants pour ses produits. La licence est indexée sur le prix du téléphone et pas sur lui des composants. Ouais, en plus, on a vu qu'il n'hésite pas à dégainer son portefeuille de brevets systématiquement. Donc tout constructeur qui fait un truc qui se connecte en 3G, 4G ou 5G, en gros, il peut se voir attaquer même s'il n'utilise aucune puce Qualcomm. Bon. De son côté, pour gagner plus de fric, Apple n'hésite pas à utiliser sa puissance financière et son influence pour enfreindre les contrats et pousser ses collaborateurs à faire de même. Bon. Alors, quant au modem 5G d'Apple, il est bien possible quand même qu'on les voit un jour, hein, comme toutes les pièces du puzzle qu'il a fini par designer lui-même. Alors, il est aussi possible que malgré l'accord, même si Apple reste pour le moment client chez Qualcomm, il continue de prospecter pour des remplaçants, parce que par exemple, alors je sais que Huawei semble exclu, pour des raisons assez claires, mais pourquoi pas Samsung ? C'est pas moi qui le dis, c'est Ming-Chi Kuo. Eh oui, je le cite souvent, lui. C'est l'analyste extra-lucide qui prédit que les iPhone 5G pour 2020 auront deux sources, Qualcomm et Samsung, pour leur modem. Alors, c'est une bonne manière de se prémunir d'une pénurie, hein, ça en tout cas. Et ça pourrait
et permettre
de tester... Exactement, ça pourrait permettre de tester un nouveau partenaire privilégié, un nouveau petit ami. Alors bon, ça pourrait être assez pratique et bon... Peut-être que tout cela, finalement, n'est pas si grave, puisque, je ne sais pas si tu as vu les résultats financiers d'Apple ce trimestre, ça confirme ce qui se profilait au premier, quoi, globalement. Hein, c'est-à-dire que les ventes d'iPhone baissent de 37,5 à 31 milliards à la même période en 2018. Hein. Pendant ce temps, bon, les iPads se vendent bien, je vous rassure. Les MacBooks se vendent...
Ils se vendent bien.
Ils se vendent bien, oui, non, ils se vendent bien. Les ils se vendent
Apple
bien.
Disons,
comparativement, quoi. Ouais, voilà, comparativement à l'année précédente, c'est quand même vendre pas mal. Les MacBooks sont un petit peu au ralenti, mais ça, c'est la faute à Intel, hein, c'est la faute à la pénurie de CPU Intel, donc à hauteur de 5%, selon Tim Cook. Bon, pendant ce temps, l'offre de services croît à un bon rythme, 30 millions d'inscriptions supplémentaires ce trimestre, et 120 millions de plus que l'an dernier, bon, et donc il y a quand même de quoi rester optimiste, il faut quand même pas exagérer.
On s'inquiète pas pour Apple, en tout cas. Je pensais pas qu'on aurait aussi vite des orientations de ce qui a pu se passer, c'est... J'étais parti pour penser qu'on n'aurait jamais vraiment le détail de l'origine de Kid Love ou de la poule de Qualcomm ou d'Intel par rapport au fait de fournir les modems. Bon ben ça semble un petit peu s'orienter. Juste au passage, ça sort un petit peu de notre sujet Guillaume, mais on parle d'un double approvisionnement par exemple pour des modems qui pourraient être à la fois Qualcomm et Samsung par exemple. Enfin c'est le cas dans pas mal de composants. Je reprends justement un truc que je vois passer assez régulièrement et j'en profite que tu es là et je profite aussi de ton expertise pour les processeurs. Pourquoi est-ce que Samsung propose toujours ses fers de lance avec deux processeurs différents selon la zone géographique dans laquelle ils commercialisent leurs produits? Il y a souvent d'un côté, si je dis pas de bêtises, les Snapdragon et de l'autre côté des puces maison qui sont à peu de choses près comparables en termes de performance et de consommation d'énergie à quelques pouillèmes près. Comment ça se fait qu'il y a toujours cette répartition? Est-ce que c'est tout simplement pour des raisons de difficulté à couvrir un aussi grand volume d'appareils avec le même composant?
Non, c'est pour des problèmes de fréquence. C'est-à-dire que les fréquences 4G ne sont pas les mêmes selon les pays. Et en fait, en gros, en Asie, en Corée, au Japon, etc., c'est un ensemble de fréquences. Et aux États-Unis, il y a cet ensemble de fréquences plus d'autres. Et il se trouve que les modems de Samsung ne sont pas compatibles avec certaines fréquences utilisées aux États-Unis, alors qu'évidemment Qualcomm les couvre. Donc quand ils ont besoin d'exporter aux États-Unis, ils peuvent avoir besoin, enfin, en tout cas pour certains modems à certaines époques qui n'étaient pas compatibles, ils pouvaient avoir besoin d'avoir recours au service de Qualcomm, qui bien sûr ne leur fournit pas que le modem, mais l'ensemble de la puce.
Ouais,
et donc on se retrouve avec du Snapdragon d'un côté, pour les États-Unis, pour les endroits où les fréquences ne sont pas couvertes par les Exynos, par les puces de Samsung.
Ok, bah ça répond bien à la question, merci. On parlait juste des résultats financiers, un petit mot peut-être aussi autour de Samsung et de la position qu'adopte du coup Huawei par rapport à ça, puisque ça semble être un peu le gagnant de ce combat du smartphone et des marchés financiers autour du smartphone.
C'est vrai, ouais, c'est vrai, puisque Samsung par contre c'est moins encourageant, hein, puisqu'il y a une concurrence sur les écrans OLED LCD, il y a une chute du prix des mémoires aussi, et bon, alors heureusement il y a eu des bonnes ventes pour le S10 qui ont un peu compensé, mais Samsung termine quand même avec un chiffre d'affaires en contraction de 13,5% en volume, enfin 13,5% donc ce trimestre, et donc en volume le coréen reste leader avec 23% du marché mondial du smartphone. Par contre c'est Huawei qui le talonne avec 19% et Apple est à 11%, donc là pour les tendances se précisent quoi, enfin, Huawei devient on sait qu'il envisage de passer premier en 2020. On ne sait pas s'il y arrivera, mais pour l'instant, clairement, c'est un adversaire qui pèse très très lourd.
On continue à parler des composants d'Intel et juste après, on va parler à nouveau de Huawei. Tout ça est très imbriqué. Avec Intel, tu voulais nous relayer le fait qu'ils avancent sur le 10 nanomètres.
Oui, je parlais de la pénurie des processeurs, donc autant en parler. Hein. Intel, donc il y a la pénurie des puces 14 nanomètres continue. En fait, c'est parce que la demande est très très haute. Les usines ne suivent plus à tel point que certaines cartes mères pourraient se voir gravées en 22 nanomètres. Il y a des vieilles chaînes de production qui pourraient être réouvertes pour alléger la pression sur les chaînes 14 nano. Intel d'ailleurs a investi 1,5 milliard de dollars pour accroître sa productivité sur le 14. Donc les puces vont très bien en fait, hein. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Intel, malgré les problèmes d'approvisionnement, hein. Alors du coup évidemment il y a des clients qui pourraient se tourner vers AMD, hein, parce que voilà, il y a juste pas assez de puces. Cela dit, il faut voir qu'Intel court deux lièvres à la fois, hein. C'est une des raisons de ses ennuis, c'est qu'il produit aussi des puces en 10 nanomètres, et leur retard met la pression sur les chaînes 14. Heureusement, les rendements sont meilleurs que prévu, et donc Intel pourra en livrer une plus grande quantité cette année. D'ailleurs actuellement il paraît qu'il fait des réserves de puces Ice Lake, qui pourraient à partir dès le troisième trimestre. Donc tout pourrait rentrer dans l'ordre à la fin de l'année, en fait, pour l'approvisionnement des puces.
À suivre sur les puces. Donc on reparle un petit peu de Huawei. Alors, attention, ça sent un peu le déjà vu avec un article de Bloomberg. Qui nous relaie des informations. Bon, là, elles émanent pas directement d'eux. Enfin, on va en reparler. On se rappelle évidemment des infos un peu sulfureuses qu'avait révélé Bloomberg sur des backdoors d'équipements Huawei. Là, c'est Vodafone qui aurait trouvé des backdoors cachés dans les équipements de Huawei. Alors, c'est pas récent. Ça date d'il y a quelques années, Guillaume.
Oui, c'est un grand scoop Bloomberg, mais là c'est quand même nettement plus crédible, il faut avouer.
Ça fait plus d'authentique.
Ça vient de Vodafone, ouais. Quand même, ouais. Ouais, c'est des vulnérabilités sur des Huawei, des équipements Huawei qui a été découverte entre 2009 et 2011, donc par Vodafone, c'est ça. Donc ça concerne des équipements réseau et aussi des routeurs domestiques. Alors c'était en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, etc. Et Vodafone aurait continué d'ailleurs à utiliser les équipements malgré tout, parce que c'était plus cher et que les remplacer serait un coût prohibitif, on imagine. Ouais, donc, ce qu'ils ont fait, c'est chercher à contacter Huawei pour qu'ils veuillent bien, s'il vous plaît, enlever cette fonction Telnet des routeurs, parce que bon, c'est une backdoor. Mais pour le coup, on peut pas dire le contraire, c'est pas possible. Avec un Telnet ouvert, tu peux te loguer sur le routeur et faire tout ce que tu veux, y compris avoir accès à potentiellement tout le réseau qu'il est en train de créer. Bon. Pour Huawei, c'était juste une fonction de maintenance. Donc, il l'utilisait pour administrer le routeur à distance, sauf qu'il y a d'autres moyens que de laisser une porte grande ouverte comme ça. D'autant que Telnet n'a rien de sécurisé. Donc Huawei a donc traîné les pieds, il a mis du temps, il a fait des mises à jour de laquelle il y était toujours, cette backdoor. Et finalement, en 2011, d'après eux, le problème a été réglé, le Telnet a été supprimé. Alors du coup, on peut se demander, hein, simple erreur, comme ils disent, ou flemme, juste la flemme. Comme en 2013, hein, quand une faille avait permis d'inclure d'autres modèles de routeurs dans un botnet géant, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est un réel désir de faire de l'espionnage ? C'est dur à dire. Bon. Au risque de passer pour un naïf, hein, j'ai quand même l'impression qu'un telnet grand ouvert, c'est pas assez subtil pour être une tentative sérieuse de faire de l'espionnage. Tu fais de l'espionnage international, ça fait vraiment pas sérieux. Tu sais ce qu'on dit, hein, plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, cela dit, c'est pas faux. Ouais, bon, en ayant tout testé, il y a bien un truc qui fonctionne d'un autre côté. Un petit mot encore pour les résultats. On est sur la fin du premier trimestre, donc c'est toujours l'occasion aussi de parler des choses qui marquent autour des résultats financiers des entreprises. On va terminer cette rubrique justement avec des résultats autour de Tesla.
Oui, c'est une rude semaine pour Tesla. Son action est au plus bas depuis 2 ans. Elle a perdu 14% dans la semaine et 29% de cette année, en 2019.
Mais pourquoi ?
Donc c'est des résultats décevants. Des résultats décevants pour les investisseurs. Le chiffre d'affaires est de 2,2 milliards ce trimestre contre 3,7 milliards celui d'avant. Donc il y a de grosses dépenses qui se profilent en plus. Écoute, il y a c'est pas rien. Et en plus, il y a de grosses dépenses qui se profilent puisqu'il y a le modèle Y qui va sortir et puis ils vont ouvrir une nouvelle usine en Chine. Donc les analystes ne sont pas tendres. Sur les 31 consultés par Reuters, 12 recommandent de vendre, 11 d'acheter et 8 sont partis boire une bière. Voilà. Ce qui est quand même dur. Donc, pour éclairer sa journée, Tesla compte sur le solaire. Évidemment, il veut baisser le prix sur les panneaux de 38%. 38% en dessous du prix du marché, donc entre 1,75 et 2$ le watt. Donc, le Solar Department, il n'est pas non plus au beau fixe, hein, si j'ose dire, puisqu'il est troisième aux États-Unis. Seulement, il a installé que 47 MW ce trimestre contre 73 l'année dernière à la même période. Donc, là encore, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que cette autonomie dont vous avez beaucoup parlé la dernière fois n'a pas vraiment impressionné les investisseurs.
Non, au contraire. Alors, c'est pas rare, hein, cela dit, c'est vrai que parfois le comportement de la bourse et des investisseurs par rapport aux annonces qui sont faites, on peut avoir l'impression que les choses sont parfois un peu décorrélées ou interprétées à l'inverse. Donc, enfin, je sais que c'est un monde un petit peu particulier et il nous faudrait des experts en placement boursier pour vraiment analyser tout ça. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ça a été accueilli avec beaucoup de tiédeur. Justement, on va clore cette première rubrique, mais évidemment en rouvrir une autre de plus belle, et on garde ce sujet puisqu'effectivement on avait parlé dans le dernier épisode de Tech Café avec Pierre-Olivier Diedmann des taxis Tesla. Le futur, c'est vous allez au boulot avec votre Tesla, vous la garez, elle repart toute seule aller faire des courses pour des gens qui commanderaient des Tesla parmi toutes celles qui sont mises à disposition, dont la vôtre. En plus, vous êtes rémunéré, vous revenez le soir sur votre parking, vous avez votre Tesla qui vous attend pour repartir chez vous. Ah, quel monde incroyablement futuriste et plein de... Ah, moi, je trouve ça très excitant. Bon, un peu de réalisme peut-être là-dedans. Comment est-ce que tu as perçu les annonces qu'on a relayées dans le dernier épisode, Guillaume? Est-ce que tu as des petites news à nous rajouter par rapport à ces annonces?
Ben oui, enfin, vous avez parlé de cette annonce qui se portait finalement sur les fonctionnalités de la nouvelle puce Tesla, hein, qui est donc ce beau bébé de 6 milliards de transistors. Qu'est-ce que je pense de cette pupus aussi? C'est vrai qu'elle est, elle est très belle, cette pupus. Alors, 6 milliards de transistors, faut voir que c'est pas si énorme, en fait. Hein. Xavier, par exemple, la puce de Nvidia, c'est 9 milliards. Et un Apple A12 Bionic, donc le dernier processeur Apple, hein, il est plus gros, c'est à peu près pareil. C'est à peu près 6 milliards aussi, dans ces eaux-là. Alors, il est plus gros qu'un A12 Bionic parce qu'il est gravé moins fin, puisque le Bionic est 7 nanos et la puce Tesla, elle est à 14 nanos et ça fait 200 mm², donc c'est des puces qui sont assez fat. Mais bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est un processeur qui est surtout très customisé. Et globalement, on y retrouve grossièrement les mêmes choses que sur un système sur puce de téléphone haut de gamme, hein, sauf que les diverses parties ont des tailles très différentes suivant les besoins spécifiques de Tesla, quoi. Donc, par exemple, il y a une toute petite GPU. Voilà, j'ai pu toute pérave, comparativement, hein, c'est vraiment pas terrible. Il y a 12 cœurs à 72 à 2,2 GHz, c'est respectable, mais là encore, ce sera surtout des trucs qui ont le rôle de chef d'orchestre, quoi. Et ouais, le plus intéressant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça se situe évidemment dans les unités neurales, qui sont donc analogues, hein, là encore, à ce qu'on peut trouver dans les puces Apple ou Huawei, hein, ou les Tensor Units de Nvidia, des puces Nvidia, ou alors les Tensor trucs là, de Google, pareil. Donc ce sont des blocs qui sont optimisés pour exécuter des réseaux de neurones qui ont été pré-entraînés. Donc elles sont logiquement surdéveloppées dans la puce, et elles prennent d'ailleurs plus du tiers de la surface. Et comme tu l'as peut-être mentionné, elles montent à 72 téra-opérations, c'est-à-dire 72 téra-opérations par seconde. Donc voilà, c'est des opérations qui sont globalement des calculs vectoriels en précision assez faible, hein. L'optimisation en fait se situe ici. C'est-à-dire ces blocs calculent avec des niveaux de précision qui sont au plus juste et conservent les données assez proches des circuits de calcul dans une SRAM. Ça permet de pour pas beaucoup d'énergie et pour le moins possible de temps de faire des calculs qui sont très optimisés sur des trucs très très spécifiques. Alors les ingénieurs Tesla, ils ont des millions de kilomètres de vidéos sur route et donc ils peuvent entraîner des réseaux de neurones dessus, hein, à reconnaître toutes sortes de choses, donc je sais pas, le type et la taille du véhicule, leur vitesse relative, et ça juste en analysant visuellement les images. Donc une fois les réseaux entraînés à faire ce qu'il faut, bah, ils sont compilés d'une manière à être exécutés au mieux sur les unités, ces fameuses unités neurales, et c'est comme ça qu'un réseau moyen peut analyser dans les 1000 images par seconde potentiellement. Donc c'est beaucoup, ce qui veut dire qu'on peut en utiliser plusieurs dans une situation réelle, quoi. Donc le scénario c'est ça, c'est les caméras du véhicule filment et les CPU demandent d'en tirer des infos. Donc par exemple le CPU demande combien il y a de véhicules, quelles sont leurs distances, où est la route, est-ce qu'il y a des panneaux, qu'est-ce que c'est ces panneaux. Et à chacune de ces questions, un réseau différent peut répondre. Et donc ce réseau il va être exécuté à la demande sur les unités neurales. Et en plus, évidemment, il y a tous les capteurs normaux, quoi, les capteurs ultrasoniques, vitesse, les capteurs de braquage, le GPS, bien sûr, etc. Et donc, en fonction de ça, ben, les cœurs du CPU peuvent prendre des décisions et commander la voiture. Donc, à noter d'ailleurs qu'il y a un petit bout du CPU qui s'occupe de la certification du code, hein, pour être sûr que, voilà. Et que sur chaque carte mère, il y a deux puces, il y a une redondance, évidemment, qui est nécessaire, hein, c'est quand même un truc hyper critique, la conduite, évidemment. Donc, ces deux puces, d'ailleurs, font exactement la même chose, et elles vérifient en permanence qu'elles aboutissent au même résultat. S'il y a un problème, ben, voilà, ça peut continuer, quoi. Donc, l'on dit, n'importe quel morceau peut tomber en panne, la voiture continuera de conduire. Donc, la conduite autonome de Tesla, c'est sans lidar. Selon Tesla, le lidar, c'est...
De technologie radar, hein, qui est utilisée par la plupart des autres. Et lui, il est formellement contre ce truc-là.
C'est ça, il dit que la vidéo suffit amplement, il n'est pas le seul à le penser, mais il y a des concurrents sérieux qui pensent aussi le contraire, quand même. Honnêtement, je ne sais pas trop, le lidar, c'est aussi la possibilité d'avoir des sens supra-humains, tu vois, pour la voiture. Donc, ouais. Elon, lui, il dit, nos yeux suffisent pour conduire, alors les caméras aussi. Bon, ouais, c'est possible. Moi, perso, je ne cracherais pas sur une voiture surhumaine qui conduirait mieux que moi. Ouais, ce serait pas mal. Bon. Alors, l'enjeu n'est pas encore là, de toute façon, puisque comme les autres acteurs qui utilisent abondamment le deep learning, bah, Tesla s'est fait une petite puce aux petits oignons, qui consomme moins, qui est très efficace, et qui, d'après lui, est suffisamment puissante pour conduire une voiture sur ce type de route, à tel point qu'on parlait, il parlait effectivement de transformer ta voiture en taxi-robot. Et là, c'est vrai, je suis sceptique, très honnêtement. Je suis sûr que cette puce est très efficace. Mais le problème, c'est que conduire une voiture, c'est une tâche qui est quand même très difficile, et pas parce que finalement c'est si dur que ça de suivre une route et de respecter les limitations de vitesse et la distance entre les véhicules, parce que ça se code en fait, c'est pas si terrible que ça. Ce qui est plus compliqué, c'est la variété immense des situations, ouais, quoi. Tu vois, c'est les 0,01% des cas où il arrive un truc imprévu, un truc bizarre, un truc soudain, un truc, même nous, hein, il peut nous prendre en défaut, quoi. Alors, je doute pas que Tesla roule bien dans 99% des cas, en fait, je pense que c'est acquis. Mais je suis un petit peu inquiet quand même d'entendre que l'an prochain, il y aura 1 million de robots taxis lâchés sur les routes, sur n'importe quelle route, dans n'importe quelle situation, alors même que Waymo, qui est dans le game depuis plus longtemps que tout le monde, et qui emploie des ingénieurs qui ne sont pas plus idiots, je pense, que ceux de Tesla, hésite à faire rouler ces taxis hors des sentiers battus. Et des trucs qui sont cartographiés au centimètre près. Donc moi, je pense que voilà, 2020, 1 million de robots taxis, ça me paraît... pas crédible plus que ça, mais bon, peut-être que j'ai tort. Hein.
Ouais, c'est quand même... je crois qu'au fond, c'est une histoire de philosophie. C'est de dire, il faut qu'on apporte cette technologie-là parce que dans 99,x% des cas, ça fonctionne bien. La question, et là où il y a un aspect philosophique, c'est est-ce que la portion où ça se passe pas bien bloque tout le reste ou elle est suffisamment anecdotique? Ça me paraît suffisamment être une question importante pour qu'on prenne le temps d'y répondre et que ce soit
peut-être ça. Et c'est peut-être ça qui a un peu inquiété aussi, parce que comme je disais, les investisseurs et les concurrents n'ont pas l'air très impressionnés par la conf d'Elon Musk.
Bon, c'est normal, de côté, ils vont pas dire
les mecs
qui...
Mais bon. Les mecs de Exhibitor Capital le surnomment le magicien du mensonge, le CEO de Lyft l'a appelé le Petit Barnum de la technologie. Certains voient Tesla d'ailleurs au bord de la banqueroute. Alors, ce sont des spéculateurs, hein, pour qui Tesla ne représente plus une valeur sûre pour se faire du blé. Donc, ça les intéresse plus trop, tu vois. Par contre, pour John McNeil, qui est donc le CEO de Lyft, qui a un partenariat avec Aptiv, et donc ils ont des robots taxis à Las Vegas, qui ont déjà effectué 35 000 courses, les chauffeurs eux-mêmes ont encore de belles années devant eux. Le concept de Tesla Taxi lui paraît pas des masses réalisables. Et de toute façon, lui, il voit son activité croître plus vite que les capacités des voitures autonomes, voire que les capacités en voiture autonome. Et donc, dans 10 ans, ils auront plus de chauffeurs que dans 5 ans, et ce, quels que soient les véhicules autonomes. Et en matière de sécurité, il y a le pavé. Le pavé, c'est le Partner for Automated Vehicle.
C'est beau.
Donc, c'est un consortium qui regroupe Toyota, Waymo, Nvidia, Volkswagen, Audi, enfin bon, voilà,
tous
ceux qui sont plus ou moins dans le secteur, quoi, voilà. Mais pour eux, Elon y est allé trop fort, quoi. Non seulement parce que sa technologie n'a fait l'objet d'aucune étude quant à sa sûreté, et ils trouvent dangereux de parler d'autopilot pour les Tesla, qui sont d'ailleurs en partie les Tesla actuels qui pourront être mises à jour, parce que ça pourrait créer une surconfiance mal placée dans des algos qui n'ont pas forcément les capacités à se compter, en tout cas pour le moment. Il faut voir aussi que toutes les voitures autonomes qui conduisent, il y a quand même des gens dedans pour reprendre le truc, tu vois, et que, bon, dire, ben voilà, tu peux laisser ta voiture faire tout toute seule, c'est pas évident. Bon, alors, évidemment, hein, c'est l'avenir nous dira si je suis. J'espère qu'il nous le dira sans aucune victime, évidemment, ça serait mieux. L'avenir nous dira si j'ai raison ou tort, tu vois. Je dis pas qu'Elon ment nécessairement, mais il est toujours très enthousiaste, très sûr de lui, et avant que la réalité le rattrape. Donc on verra bien si en 2020, les Tesla sont subitement aussi bonnes qu'un conducteur humain. Hein. Moi, si j'en avais une après la mise à jour, je l'essaierais volontiers, mais sur des routes pas trop fréquentées et à tout moment prêt à reprendre la main. Tu vois, ouais. Je ne serais pas du tout tranquille de les laisser partir transporter quelqu'un pendant que je suis au bureau. Et si elle se plante, c'est pour ma pomme ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de grosses questions là-dessus, quoi.
J'ai vu l'autre jour passer sur Twitter des comparaisons, on en voit régulièrement, hein, de Elon Musk sur son côté Steve Jobsien, tel que tu le décris là et tel qu'il porte ces sujets-là d'innovation. Et il y avait pas mal de monde qui relayait le fait que, oui, à l'époque où l'iPhone est sorti, tout le monde était, les concurrents étaient évidemment très sceptiques sur l'approche produit. Là où la comparaison a vite ses limites, tu le dis, hein, c'est que bon, dans un cas on est sur un appareil de type téléphone plus ou moins évolué, dans l'autre cas on est quand même sur des armes en circulation libre, enfin des trucs qui peuvent carrément remettre en jeu des vies humaines. Et donc, quand bien même il aurait autant raison que Steve Jobs, je trouve que l'approche est un petit peu hâtive par rapport aux conséquences qu'il peut y avoir. Et en même temps, s'il n'y a pas un Elon Musk qui pousse sur ce sujet-là, est-ce que le sujet avancerait aussi vite ? Probablement pas. Donc bon, c'est pas si simple, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Une petite mention justement, hein, des enjeux qu'il peut y avoir.
Si elle est autonome, tu peux. Hein.
Comment ?
Si c'est une charrue autonome, tu peux y aller.
Oui, effectivement. Mais si elle est vraiment autonome et qu'elle n'a pas de défaillance, effectivement. Tu nous parles un petit peu de hacking de manière originale, justement, sur les véhicules ?
Ouais, pour continuer sur la sécurité des voitures d'aujourd'hui et de demain, on peut aussi aborder le problème du piratage, parce que c'est carrément pour tout de suite. En l'occurrence, il y a LEM, qui est un hacker chapeau blond, donc un gentil, qui a réussi à compromettre des logiciels de tracking GPS qui s'appellent ProTrack et iTrack. Donc c'est des apps pour suivre des flottes de véhicules qui est utilisé par des boîtes plutôt des entreprises, hein, je suppose. Et oh là là, c'était facile. Hein. Le mot de passe par défaut à l'inscription, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours le même.
Excellent.
Donc en quelques minutes, LEM, il a mis la main sur 7000 comptes TerraTrack et 20 000 comptes ProTrack. Il a pu en extraire plein de données super, comme la position du véhicule, mais aussi des emails, des noms d'utilisateurs. Voilà, bon. Ça pour des milliers d'utilisateurs dans le monde entier. Mais il y a pire, dans certaines voitures, le GPS peut couper le moteur quand elle roule lentement, en général sous les 20 km/h. Et donc, c'est aussi dans les cordes des applis, et le hacker a donc la possibilité d'arrêter les moteurs de centaines de voitures dans le monde, en créant au passage un beau bazar, même de véritables accidents. D'ailleurs, évidemment, il ne l'a jamais fait, hein, c'est beaucoup trop dangereux, mais ça démontre justement la dangerosité de certaines fonctions et la manière très légère dont elles sont protégées par les boîtes, celles-là, c'est deux boîtes chinoises encore d'ailleurs, qui commercialisent ces trucs, là, en l'occurrence iTrack et ProTrack. En fait, d'ailleurs, la documentation même de ProTrack mentionne que le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'est précisé, alors, c'est assumé.
C'est précisé, c'est assumé. Alors voilà, donc quand toutes les voitures seront comme les Tesla, avec des actuateurs partout, ben, on pourra vraiment avoir les scènes de hacking comme on a eu dans Fast and Furious 8. Je ne sais pas si tu as vu.
Non, c'est, pas du tout. Je crois que j'ai jamais vu un seul Fast and Furious de toute ma vie.
Oh mon Dieu, c'est une expérience, c'est une expérience. Enfin, tous les cas, dans le 8, il y a donc il y a une sorte de hacking massif d'une flotte entière de voitures et qui, assez hallucinant. Donc, je savais pas que ça se passait dans le futur, Fast and Furious, c'était pas mentionné, mais manifestement, oui. Hein.
Bon, c'est la belle anticipation, du coup. Du coup, il faut peut-être se prémunir de ces situations-là et anticiper des décisions sur le plan politique, Guillaume ?
Je sais pas, la taxe aux robots, je sais pas, on en avait parlé plus ou moins. C'est un truc qui revient, c'est un truc qui est porté par Benoît Hamon et, bizarrement, Bill Gates. Voilà. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste, ça consiste à taxer le robot comme si c'était un travailleur. Et donc voilà, en gros, la richesse qu'il produit, elle est imposée comme la richesse que produirait un travailleur lambda. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette richesse ? Bah évidemment, on peut faire des tas de choses, mais on peut aussi, par exemple, financer un revenu universel. Donc c'était les grands trucs. Bon, évidemment, c'est complexe parce que déjà, c'est pas évident de savoir ce que c'est un robot, tout bêtement. C'est-à-dire que, par exemple, une machine à café, est-ce que c'est considéré comme un robot ? C'est un problème, voilà, un distributeur automatique, est-ce que c'est un robot ? Est-ce que ça prend un emploi ? Oui, non, bon, là, évidemment, c'est parfois assez évident, là, je caricature, mais des fois, c'est beaucoup moins évident que ça. En plus, il y a des emplois qui peuvent être que partiellement remplacés, en fait, par des machines. Du coup, bon, c'est quand même compliqué, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment testé à ma connaissance, ce truc-là. Même si l'idée, c'est une idée qui fleurit un petit peu partout, qui fleurit aussi dans des pays, évidemment, où il y a beaucoup de robots, comme la Corée du Sud, mais qui, à ma connaissance, n'a encore jamais été essayé vraiment. C'est dommage. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Ça va dépendre des pays, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avec beaucoup plus de robots que d'autres. Et dans les pays où il n'y a pas beaucoup de robots, l'argument des contres, c'est évidemment que on a besoin de plus de robots pour concurrencer les pays qui en ont beaucoup. Et donc, si on commence à les taxer, forcément, ça va faire baisser notre compétitivité. Alors qu'à l'inverse, on pourrait se dire, oui, mais des robots créent de la richesse, qui cette richesse n'est pas redistribuée, puisqu'évidemment, ça a plus de richesse pour le propriétaire du robot, mais pas pour la société. Donc, c'est compliqué. Je pense que c'est un truc qui est assez... c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, globalement... on avait parlé d'Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, c'était qui ? C'est dans les précédents épisodes, c'est une candidate à la primaire démocrate dont on a parlé plusieurs fois. Je vais pas revenir dessus. Et donc, elle n'est pas la seule, évidemment, candidate à la primaire. Il y en a plein, beaucoup trop sans doute. Et donc, ils sont tous plus ou moins à gauche, ils sont tous plus ou moins technophiles. Bon, et dans ce dernier style, le style technophile, on a Andrew Yang, qui est assez radical. Lui, il n'a pas moins de 80 propositions de campagne. Et alors lui, c'est vraiment le candidat tech, quoi. Donc, il souhaite humaniser le capitalisme, néanmoins. Mais il veut utiliser la technologie, les données, la science, pour attaquer tous les problèmes, de la neutralité lunette à la crise des opiacés, quoi. C'est vraiment tout. Et donc, lui, il est partisan d'une taxe robot, mais au cas par cas. Donc, par exemple, on est éventuellement en Californie, mais pas forcément partout. Donc parce qu'évidemment c'est un petit peu compliqué, hein, comme en Europe, chaque État, tu vois, les États n'ont pas tous le même niveau d'automatisation en Amérique, quoi. Et donc le même nombre de robots, donc faire une loi fédérale, c'est pas évident. Mais bon, il veut quand même un transfert de richesse pour compenser l'automatisation au sens large. Il dit quand même que 4 millions de travailleurs ont perdu leur emploi depuis l'an 2000, et que seule la moitié de ces gens ont pu être remplacés, parce que voilà, on ne transforme pas d'un claquement de doigts un chauffeur routier en codeur, et surtout, et pas forcément plus en codeur, qui retrouve du boulot, c'est qui n'est pas évident, tu vois. Donc lui, il propose un revenu universel de 1 000 $, sans condition. Donc la tech est transformative, il veut une mesure transformative aussi. Et pour lui, il y a un exemple tout trouvé, qui est l'Alaska. Donc je ne savais pas ça, mais l'Alaska, qui n'a pas de revenu universel au sens propre, mais il a l'exploitation des hydrocarbures, et ça génère des dividendes que perçoivent chaque résident. Alors il fluctue avec les prix du brut, quoi, avec les prix. Mais bon, il varie quand même entre 800 et 2 000 $ à peu près. Eh ben, crois-le ou non, mais tout le monde est content. Le dividende n'a aucun effet sur l'emploi. Il décourage pas les gens de travailler. Il lutte efficacement contre la pauvreté. Il nuit pas à l'économie. Bon, bref, ça roule. Alors évidemment, étendre ça à tous les États-Unis, c'est un chantier qui est compliqué, mais quand même, ça donne de l'espoir. Donc voilà. Alors, Yang, voilà, c'est un exemple de candidat à la primaire. Donc il a vraiment pour tous les goûts. Bon, il est aussi partisan d'utiliser du geoengineering pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce que je suis beaucoup plus réservé. ce peu avec quoi je suis. Beaucoup plus réservé. Mais bon, voilà, c'est bien de voir un petit peu de nouveauté. Voilà, moi, je me demande qui sera choisi, ce que donnera cette élection. Le suspense est insoutenable. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça prend le relais du trône de fer, puisque maintenant que la longue nuit est passée, voilà, j'espère qu'elle va aussi se terminer outre-Atlantique.
le parallèle est intéressant. Oui, alors juste un mot quand même pour rappeler. Moi, tu sais, j'ai toujours en perspective quand on compare ce qui se passe dans certains pays, notamment, alors ça se fait souvent avec les pays nordiques en Europe, là, en l'occurrence, des appuis sur ce qui se passe en Alaska. l'Alaska. Rappelons, hein, les populations sont pas forcément les mêmes. En Alaska, il y a même pas 800 000 habitants, donc c'est parfois compliqué de faire des transpositions. Mais je trouve que les réflexions, en tout cas, sont super intéressantes. Moi, je me cache pas, je l'avais déjà dit, hein, durant les élections présidentielles, le fait que j'étais assez favorable au fait qu'on réfléchisse tous ensemble à ces notions de taxe robot. Et assez vite, ce qui est opposé à ce type de réflexion, c'est de dire, comme tu l'as brièvement mentionné, comme ça peut souvent remonter, c'est oui, alors à partir de quel moment c'est un robot? Est-ce qu'une cafetière c'est un robot? Et je crois que de répondre par ça, enfin les personnes qui ne répondent que ça à ce type de réflexion, je trouve ça dommage, et je trouverais ça beaucoup plus intéressant de se dire tous ensemble, est-ce qu'il y a une opportunité? Et si oui, comment est-ce qu'on peut y réfléchir pour la mettre en œuvre? Il y a à mon avis des opportunités chouettes sur lesquelles on pourrait tous ensemble bosser pour que l'humain s'en sorte un petit peu grandi. Il y a aussi pas mal de situations où en entreprise, il y a vraiment des robots qui s'installent, des entreprises de services, on appelle ça des RPA, avec des robots qui vont aller faire des manipulations hyper répétitives de la part de d'employés, et donc de vraiment remplacer les jobs pour faire des tâches à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, sur le fond, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça beaucoup mieux que ce soit un robot qui fasse un truc débile plutôt que d'obliger un humain à le faire. Mais je trouve que ça pose quand même des questions sur le plan économique et social qui méritent d'être réfléchies et certainement pas opposées avec des affirmations telles que est-ce que le jouet du gamin, c'est un robot qu'il faut taxer, quoi. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Un petit mot autour de Uber, pendant qu'on est sur les sujets de la mobilité, qu'on a longuement abordé dans le dernier épisode, là aussi, pour le mettre en opposition à Tesla, justement.
Oui, on parlait de Lyft tout à l'heure, qui rentre en bourse récemment, et on avait évoqué de ses performances modérées, puisqu'il est quand même rentré à 24 milliards de capitalisation, et qu'aujourd'hui, il en est à 16 milliards seulement. Donc Uber, qui se voyait déjà à 120 milliards, se voit désormais valorisé à vers les 80. Ça reste énorme, c'est toujours la plus grosse introduction de l'année. Attention, pas de Black Salas, entre 44 et 50 dollars par action, donc pour une valorisation entre 90 et 80 milliards à peu près au total, et 9 milliards de levée de fonds. Bon, non, c'est pas clair, levée de fonds, hein, puisque certains investisseurs s'interrogent non seulement sur le business model d'Uber, mais aussi sur sa pertinence écologique, parce que certains craignent que les services de VTC ne dissuadent les gens de prendre les transports en commun, tout simplement, ce qui est donc forcément plus polluant. Alors jusqu'à présent, il semble que les services de VTC ont amené quand même plus de voitures dans des zones centrales qui sont déjà très congestionnées. Et les études sur le sujet sont peu concluantes et les chauffeurs, par exemple, viennent d'assez loin et du centre et donc d'où ils travaillent. Et c'est pas comptabilisé par l'appli et donc c'est difficile à quantifier et à prendre en compte. Les pouvoirs publics veulent le réguler aussi. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait New York. Uber et Lyft ont cessé de prendre des nouveaux chauffeurs dans la ville, hein, parce que la ville oblige à payer des chauffeurs un salaire minimum, et ce salaire minimum est indexé sur le temps d'utilisation. Donc plus la voiture voyage à vide, plus c'est cher. Résultat, le centre-ville qui est déjà congestionné n'est plus rentable pour plus de chauffeurs. Donc en un sens, donc, ça marche. Bon, évidemment, Lyft et Uber poursuivent la ville. Bon, on se souvient que Facebook était entré en bourse à 102 milliards et Alibaba à 124 milliards. Bon, on verra bien ce que ça donne jusqu'au premier trimestre. Je le rappelle, Uber a encore perdu 1 milliard de dollars.
Quel gouffre. Alors, dans la famille des entreprises qui ont perdu longtemps de l'argent, et si on le met aussi en perspective de notions écologiques, on a un petit article là que tu voulais nous relayer autour de l'impact environnemental d'Amazon, justement, et de ses livraisons gratuites avec Amazon Prime.
Mais oui, parce qu'on achète tous en ligne, c'est un fait. Et de plus en plus, hein, l'an dernier, 96% des Américains ont fait au moins un achat en ligne. Et le fait que les frais d'envoi soient dérisoires ou nuls, c'est déterminant pour la moitié d'entre eux. Donc il y a beaucoup d'urbains qui utilisent Amazon comme nous, hein, je veux dire, je le confesse aussi, pour tout. Et voilà, et comme on peut tout réexpédier gratuitement, on peut aussi l'utiliser pour beaucoup, pour n'importe quoi. Donc bon, qui dit Amazon dit deux choses, livraison et carton. Et la quantité des cartons, elle est en augmentation constante et inquiétante, 20% en une dizaine d'années. Or, le recyclage, c'est pas ça. Déjà, tout le monde ne recycle pas. Hein. Alors, selon USA Today, la consommation de cartons a augmenté en 2017 pardon, de 3,5%, alors que 300 000 tonnes de cartons en moins ont été recyclées. Bon, en plus, les cartons ne doivent pas être contaminés. Moi, j'ai appris qu'il y avait une limite de 0,5% d'impureté, au-delà duquel les cartons partaient à la benne. Donc ça peut être n'importe quoi, de la colle, de la nourriture, du gras, c'est, voilà, c'est foutu. Bon, c'est quand même, voilà, c'est pas évident, forcément. Donc quant à la livraison, c'est compliqué aussi, parce que moi je me suis toujours demandé, est-ce que je tue la planète en commandant un jeu vidéo sur Amazon ? La réponse est probablement. Donc, ça peut potentiellement être plus écologique pour toi, une livraison, tu vois, que d'aller au magasin, évidemment, parce que, admettons que toutes tes courses te soient livrées en une seule fois, qu'elles soient conditionnées dans un espace optimisé, avec le moins de cartons vides possible, hein, bah, c'est clairement mieux que d'aller toi-même en voiture au magasin. Bah, tout le monde va en voiture au magasin.
Ça, c'est clair.
Voilà. Voilà, donc alors, tu vois, c'est évident, hein, tout le monde va aux voitures au magasin, chacun prend sa voiture individuelle, alors que bon, s'il y a une livraison globale, bah forcément, on va utiliser, les livreurs vont utiliser le chemin le plus court, et donc ça va faire moins de trucs. Mmh. Le problème, c'est que ça se passe jamais comme ça. C'est parce que déjà, on a tous reçu des colis d'Amazon avec 70% de vide. Et puis, bah, bien sûr, je commande un livre, voilà. Et puis, deux jours plus tard, je commande une batterie. Puis enfin, voilà, je commande un frigo USB. Et ce frigo USB, il refroidit pas bien, alors je le renvoie. Voilà, et là, évidemment, c'est la cata. Hein, les commandes multiples, le laxisme que me permet la réexpédition gratuite. Je sais pas de combien de kilomètres en plus ça fait. Et puis, pire, puisque j'ai pas de voiture, je pourrais carrément aller acheter mon frigo USB à pied ou en métro, et ce serait encore bien mieux. Bon, voilà. En plus, Amazon compte sur des centaines de sous-traitants qui sont souvent des auto-entrepreneurs, hein, dont les véhicules sont disparates, ils peuvent être anciens, parfois petits, donc ils rentrent pas énormément de trucs dedans. Ils sont plus ou moins récents, donc plus ou moins polluants. Bon, voilà. Et plus, ils viennent là encore hein, de loin, parfois. Donc c'est un trajet supplémentaire, et surtout, c'est une opacité qui rend des études sérieuses très difficiles là-dessus. Mmh. Et c'est encore pire si tu demandes la livraison rapide, parce que les livraisons rapides, elles permettent pas d'optimiser les parcours comme des livraisons lentes, qui permettent d'agréger plus de commandes. Et donc, ça donne toujours presque des trajets plus longs. Or, Amazon investit 800 millions là, pour rendre la livraison en un jour ouvré le choix par défaut. C'est la news du jour. Bon, c'est très cool pour les clients, mais alors évidemment c'est plus cher pour Amazon, mais c'est aussi très probablement plus long et plus polluant. Donc voilà, en gros, c'est un article de BuzzFeed qui résume un petit peu ça, et les experts donnent des conseils un petit peu de bon sens peut-être pour éviter de tuer trop la planète en utilisant Amazon. Bah déjà, n'achetez pas sur un coup de tête, voilà, le produit le moins polluant, c'est celui qu'on n'achète pas. Alors achetez-en moins, les frigos USB ça marche pas bien, je peux vous le dire. Oui, mais si, oui, non, mais tu sais, c'est ces petits trucs. Non, mais oh bon, ça va.
Ça me
rassure
tellement.
C'est ces micro-frigos. Ces micro-frigos, on met la canette dedans, ça avait l'air d'être une bonne idée.
Mais ça me rassure tellement que tu puisses te faire avoir sur des trucs pareils, parce que honnêtement, Guillaume, sur plein d'aspects de la consommation, t'es un modèle. Tu es quand même celui qui aura porté le si c'est ouvert, n'entrez pas. Et je trouve que tu as des discours qui sont extrêmement réalistes.
Oui,
mais le fait que tu te fasses avoir
ici
par des frigos USB, c'est génial.
Il fait très très chaud ici. Je me suis dit, bon, écoute,
c'est mignon.
Et en fait, non, mais c'est. Je savais que c'était une connerie, mais bon, voilà, bon, c'est pas grave. Donc ça marche pas bien. Il y a plein de trucs comme ça, USB, qui marchent pas bien, en fait.
Moi, j'ai deux mentions par rapport à Amazon, justement, sur ces aspects-là. Alors moi, j'ai une astuce, si jamais... on en a parlé, d'ailleurs, dans ReLife, qui est une autre émission que je co-anime sur l'amélioration du quotidien, qui est bien moins tech, même si, évidemment, on est un peu des geeks, donc on aime bien rappeler nos trucs tech. En l'occurrence, un conseil, moi, de quelque chose que j'ai commencé à appliquer et qui a changé un petit peu ma consommation d'Amazon par rapport à livraison, c'est que je m'interdis toujours d'acheter un produit immédiatement. Je les mets toujours dans mon panier.
Et oui, tu consolides tes achats.
Et voilà, j'essaie de consolider
mes
achats.
Gros lots,
voir, alors déjà, effectivement, ça peut rassembler les livraisons, mais surtout, il y a, et bon, ça c'est le moindre avantage, le très très gros avantage, c'est que je me rends compte que deux fois sur trois, le truc que j'ai mis dans mon panier quelques jours avant, j'en ai absolument pas plus besoin que ça. Et je me dis, ça peut attendre et on verra plus tard et c'est pas si essentiel que ça. Je pense qu'effectivement, il y a plein de choses que ça permet, mais au final, il y a un arbitrage à faire sur la commande qu'on peut faire qui est assez important. Un petit mot aussi pour dire que donc Matt, qui m'accompagne justement dans ReLife, lui a fait le choix d'arrêter son abonnement à Amazon Prime, et c'est pas le seul, j'ai eu plusieurs retours de ce type là parce que il considère, Matt comme d'autres, que finalement, quand ils ont vraiment besoin de quelque chose, ils vont le chercher, et que toutes les fois où ils commandent des trucs où ils en ont pas vraiment besoin ou pas tant que ça, et la multiplication des livraisons leur posait plus de problèmes qu'autre chose, et dans le fond, on les rend pas plus heureux. Bon, c'est peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'Amazon Prime.
Mais d'ailleurs, un des conseils, c'était, c'est très con, mais si vous pouvez vous déplacer pour aller acheter des trucs, à pied ou en vélo,
ouais, c'est clair,
ou en transport en commun, évidemment, allez-y, ce sera toujours mieux. Et donc, comme tu disais, le mieux, c'est de faire des lots, pour essayer d'être livré en une seule fois de plusieurs articles, et de pas prendre la livraison la plus rapide. Voilà, pour laisser le temps aux logisticiens d'optimiser les courses. Et là, vous avez une chance d'avoir un truc qui soit pas trop horrible.
Un petit mot aussi toujours pour Amazon, avant de clore cette rubrique, Guillaume.
Oui, bon, on a parlé de pas mal de résultats financiers, donc on peut faire continuer avec Amazon. Hein. Donc voilà, Amazon va bien, merci. 59,7 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre, c'est deux fois mieux qu'anticipé par les actionnaires. Donc c'est très bon, surtout grâce à AWS comme d'habitude et à la pub. Bon, il y a aussi un petit peu moins pour la vente en ligne, et puis il y a des gros investissements, donc à Nia par exemple, et puis dans la production des produits smart home comme les Ring. Et apparemment, l'avenir d'Amazon, ça passe aussi par la commercialisation de toute une grosse ligne de produits qui seront donc des produits smart, donc dopés à l'IA. Bon, et évidemment, il y a la fameuse livraison rapide par défaut qui coûte un petit peu cher. Donc Amazon est efficace, très efficace. Hein, donc, d'ailleurs, on parlait d'automatisation là tout à l'heure. Et puis les entrepôts d'Amazon ne sont pas encore pleins de robots. Pourtant, la gestion des ressources humaines, elle est déjà bien automatisée. Donc chez Amazon, les manutentionnaires font et ils déplacent des cartons toute la journée, parfois des centaines par heure selon la demande. Hein. J'ai lu des chiffres assez hallucinants, puisque les quotas de productivité varient entre 240 et 400 cartons de l'heure. Donc ça m'hallucine. Et bon, si un travailleur est en dessous, bah, il reçoit des avertissements et peut se faire virer. Et le processus, ce qui est fou, c'est qu'il est automatisé. Il n'y a aucun superviseur qui n'est requis. Quoi. Ça arrive très souvent, en fait, puisque sur un an, dans une seule usine, il y a donné 300 employés qui ont été renvoyés. C'est très significatif, ça tourne autour des 10% de la masse salariale, ça en moyenne. Hein. Donc, chaque action de chaque personne est loguée, horodatée, et si le temps entre deux scans, par exemple, est trop long, et si c'est trop souvent, bah, c'est la porte. À tel point que certains n'osent même plus aller aux toilettes. Bon, tu vois, pour être rationalisé, bon, bah, c'est rationalisé, tu vois, donc on sait... on sait tout ça, d'ailleurs, par ailleurs, on sait tout ça parce qu'il y a des dossiers d'un procès entre un ex-employé d'Amazon et qui a été publié, The Verge, il y a un procès entre un ex-employé d'Amazon et Amazon qui a été publié par The Verge, et donc voilà, bah, ça arrive régulièrement. Donc tu vois, bon, effectivement, comme tu disais, il y a des métiers, c'est vrai que s'ils étaient automatisés, forcément, s'ils étaient robotisés, ce serait peut-être pas forcément plus mal. Évidemment, il faudrait pouvoir que les gens qui sont remplacés puissent vivre, mais vivre mieux. Donc l'ampleur du problème est quand même assez vertigineuse, quoi.
Ouais, gros boulot et gros enjeux, encore une fois, sociétaux et presque philosophiques par plein d'aspects, et on continuera à les suivre, bien entendu. On enchaîne avec la rubrique en bref, qui, comme toutes les rubriques en bref de Tech Café, sont très longues, mais toujours passionnantes. On va essayer de mitrailler un petit peu les news. On va commencer avec une news avec... on va parler d'un notch, mais c'est pas une encoche de smartphone pour une fois, Guillaume.
Non, mais il est passé de mode aussi. C'est exactement pareil, puisque Notch, donc le créateur de Minecraft, ne sera pas invité donc à la grand-messe annuelle faite par Microsoft sur le jeu Minecraft. Ça peut paraître hallucinant, mais il faut savoir que depuis que Notch est devenu milliardaire, il est aussi devenu con. C'est parce que, je sais pas, il arrête pas de faire des tweets et des sorties qui sont homophobes, transphobes, facho, quoi, tout simplement. Voilà. Donc Notch est tourné facho et il a perdu tous ses amis. Et ben, c'est tombé pour lui. Apparemment, tu vois, de l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, Minecraft continue de cartonner. J'ai une news rigolote. Tu sais que la partie... tu sais que tu peux jouer en mode extrême à Minecraft.
J'ai vu la news, mais je ne l'ai pas tout à fait compris. Je ne connais pas ces modes de jeu. Il faut que tu me les décrives un petit peu.
Oui, et ben écoute, sur Minecraft, tu peux donc jouer en mode survie, Et ce mode survie, donc t'as une vie, et tu peux, quand tu meurs, tu reviens près de ton lit, en fait, du dernier endroit où t'as dormi.
D'accord.
Mais t'as un mode qui, quand toi tu meurs, c'est terminé.
Ah oui.
C'est un mode, le mode extrême, avec une permadef, qu'on appelle, donc la mort est permanente, donc ça veut dire que tu as joué 10 heures dans ce monde-là, si tu meurs, ben c'est terminé, il n'y a plus aucune sauvegarde.
D'accord.
Et il y a quelqu'un qui a joué comme ça, et il a réussi à tenir sa partie pendant 5 ans.
Mais comment il a fait? Il faisait pas pipi, il mangeait pas, il se faisait relayer?
Non.
On peut mettre pause.
Il a joué pendant 5 ans à la même partie. Oui, d'accord. Bien sûr. Mais il a joué pendant 5 ans à la même partie.
D'accord.
Et donc voilà. Mais donc c'était la plus longue partie de Minecraft.
Sa mort a dû être épique, du coup.
Eh ben non, il a été tué par un bébé zombie.
C'est ridicule.
Il était tué par un bébé zombie qui était en armure complète, et lui n'avait pas une armure complète, donc il s'est fait défoncer la tronche. Ça doit piquer très très fort.
Ouais, ça fait mal, bah, surtout que c'est en vidéo, hein, évidemment, si vous voulez assister à cette mort, il y a la vidéo. Un petit mot du côté de chez Epic, là aussi on va parler RH du côté de chez Epic.
Oui. Epic Crunch, donc pour Fortnite, c'est, tu sais quoi, on dit souvent, on parle souvent des développeurs de jeux vidéo qui travaillent à des, ouais. 10, des parfois jusqu'à 70, 80, 100 heures par semaine pour boucler un jeu. Alors l'avantage, le désavantage du crunch, c'est que c'est atrocement difficile et que voilà, c'est terrible et ça peut durer des mois. L'avantage, c'est que ben, quand le jeu est sorti, c'est fini. Sauf quand vous avez un jeu qui ne finit jamais, comme un jeu as a service, comme ouais. les Fortnite par exemple, puisque Fortnite se met à jour en permanence et il est jamais terminé en fait. Et donc ils travaillent tout le temps dessus et ils sont en crunch permanent. Et donc il y a des c'est un long article de Polygon que je vous encourage à lire si vous êtes intéressé par le sujet, qui donc décrit qui synthétise on va dire une douzaine de témoignages de gens chez Epic qui décrivent des conditions de travail absolument monstrueuses, puisque voilà, c'est 80 100 heures de travail, une impossibilité de refuser les heures supplémentaires à moins de pas être renouvelé, puisque la plupart de ces gens sont en CDD tout simplement. Donc il y a une pression qui est absolument monstrueuse et un crunch qui est complètement permanent. C'est encore pire en fait que ce qu'on peut imaginer chez d'autres trucs, parce que ça ne finit jamais. Alors évidemment chez Respawn, donc ceux qui font Apex Legends, donc un concurrent de Fortnite, on s'empresse de dire que c'est pas du tout comme ça. Tout simplement parce que, aussi, Apex Legends n'a pas le même mode de mise à jour ouais. Saisonnier comme ça, puisqu'il y a des saisons qui se renouvellent en permanence sur Fortnite. Donc ils veulent pas faire la même chose chez Apex, et pour l'instant, les développeurs survivent encore. Donc espérons que ça continue.
Tu sais, je me pose quand même la question, au final, sur des boîtes comme ça. Alors bon, les autres, je sais pas, mais Epic, en l'occurrence, qui est quand même un succès commercial assez dingue, est-ce qu'il y aurait pas quand même intérêt pour... juste d'un point de vue moral, hein, de donner des conditions de travail plus favorables pour les employés, avec des contrats un peu mieux dimensionnés. Et évidemment, ça coûterait énormément plus cher, mais au final, est-ce que ce serait si grave compte tenu des revenus qu'ont ces sociétés-là ? Est-ce qu'on en est à un tel niveau d'équilibre financier qu'il faut qu'ils rognent à tous les niveaux, à ta connaissance ?
Fortnite, pour le cas de Fortnite, si tu veux, étant donné que les développeurs gagnent peut-être plusieurs millions de dollars par jour, je pense pas, très honnêtement. C'est, dans ce cas particulier, je pense que c'est pas le cas. Après, pourquoi ils fonctionnent comme ça, c'est pas clair non plus. Évidemment, vu le succès du jeu, ils ont augmenté la taille des équipes, hein, ils sont plusieurs centaines, hein, mais je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils sont autant toujours en crunch. Peut-être que c'est aussi difficile de... Comment dire ? Je pense que c'est plus facile d'avoir moins de mecs qui travaillent plus longtemps que de répartir le boulot sur plus de mecs. Mmh. Et donc, je ne sais pas à quel point ça explique le fait que des gens qui soient extrêmement riches, comme Epic, puisque bon, avec le succès de Fortnite, soient encore dans ce truc-là de crunch où voilà, les gens travaillent 100 heures par semaine, alors que bon, c'est deux personnes qui travaillent 50 heures ou une qui travaille 100. C'est pas pareil, mais tu vois, voilà, à un moment donné, ce serait bien que, effectivement, on passe à des trucs un petit peu plus normaux, quoi. Bon, j'ai pas plus d'infos que ça sur tout ce que j'ai lu sur l'article de Polygon, c'est que le management chez Epic était très violent, quoi. Ouais. C'est-à-dire, les mecs sont remplaçables, et voilà, quoi, si ça te plaît pas, bah, tu dégages, et puis bon, on prend un autre, et puis voilà, quoi.
Et tira manipuler les cartons chez Amazon. On a compris le message. Alors, justement, l'OMS s'en mêle un petit peu, enfin, en tout cas, prend parole dans l'univers du jeu vidéo et fait quelques recommandations, Guillaume.
Oui, la recommandation principale, c'est ressortir votre Wii et jouer à Dance Dance Revolution. Puisque globalement, le temps d'écran, alors bon, je sais pas, il y a des préconisations alors, plus précises sur les enfants, tout ça, comment il faut leur faire de temps d'écran. Bon, globalement, si on devait résumer, c'est moins que le temps d'écran, c'est le temps de sédentarité qui est visé. C'est-à-dire que ça dépend ce que tu fais devant l'écran. Si devant ton écran tu lis par exemple, je sais pas, une histoire avec tes parents, ben c'est pas la même chose que si tu regardes YouTube tout seul. Si tu regardes la télé affalée sur le divan, c'est pas la même chose que si tu joues un jeu de danse avec tes copines. Bon, si tu veux, en fait, le l'OMS, c'est des recommandations qui sont plus presque de bon sens, quoi, hein, sur le fait qu'il faut pas que les enfants restent trop longtemps assis au même moment, qu'il faut qu'ils se bougent un peu, qu'il faut qu'ils aient des interactions sociales, qu'ils jouent avec leur corps et voilà, qu'ils restent pas devant l'écran, parce que finalement, rester devant l'écran, c'est aussi un symptôme d'une, voilà, pour selon l'OMS, hein, d'une pas d'une, enfin, d'une qualité, oui, d'une qualité de vie, on va dire, je sais pas, d'une, d'une hygiène de vie qui est pas, pas extrêmement, pas extrêmement formidable. Et surtout, les enfants, bah, c'est là qu'ils prennent aussi les habitudes, quoi. Mmh. Donc, si tu prends l'habitude de rester très sédentaire, bah, tu vas rester très sédentaire aussi après, et on sait que c'est pas très bon pour la santé d'être trop sédentaire, donc voilà.
Pour être papa d'un enfant de 7 ans et de bientôt 3 ans pour son petit frère, je peux confirmer à quel point c'est une attention de tous les moments à avoir. La consommation des écrans peut être assez terrible. Moi, je pense que ça dépend de l'environnement familial aussi, du temps qu'on a pour encadrer, accompagner, mais effectivement, ça peut aller très vite. Allez, jeux vidéo avec la mobilité et notamment une proposition de smartphone qui est révolutionnaire, qui permet des traitements graphiques assez dingues. Mais pour ça, il faut passer par un accessoire qu'on n'avait pas vu venir sur le smartphone, Guillaume.
Oui, ben oui, refroidissement liquide avec, enfin, oui, refroidissement liquide en quelque sorte. Globalement, on a un refroidissement actif avec un ventilateur sur un téléphone. Ça y est, comme sur ton PC de gaming, c'est assez génial.
Water cooling dans ton smartphone.
Et oui, c'est le Nubia Magic, enfin, c'est le Red Magic 3. Donc,
qu'est-ce qu'on
peut faire avec ça ? Snapdragon 855. Ben, c'est en fait, globalement, la même chose que les autres, mais plus longtemps. Parce que, bon, tu sais que les processeurs de smartphone, ils sont très puissants, mais ils ne sont pas non plus forcément conçus pour fonctionner très longtemps à le régime maximum, parce que, bon, d'une part, ça bouffe la batterie, mais ça s'en fout un peu. Mais surtout, ça chauffe énormément.
Ça chauffe, ouais.
Et donc, quand il chauffe, quand il se voit trop chauffé, qu'il se voit mal, ben, il baisse la cadence, et donc, du coup, ben, la cadence baisse aussi dans ton jeu. Et pour éviter ça, ben, il faut des bons systèmes de dissipation de la chaleur. Et donc, bah, là, ce qu'il propose, c'est un système de dissipation de la chaleur quasiment optimal, hein, c'est-à-dire avec voilà, des trucs en cuivre, un radiateur en cuivre, un refroidissement avec actif, quoi, avec un petit ventilateur, mais qui peut tourner très très vite, 14 000 tours minute quand même. Et tout ça, ça permet de maintenir la température du processeur, donc de maintenir des performances pendant toute la session de jeu. Bon, voilà, c'est assez. Enfin, par ailleurs, le truc est quand même assez impressionnant, puisque donc il y a 6 Go de RAM, il y a 64 Go, c'est un 855, comme je l'ai dit. C'est un Full HD de 6 pouces 5, AMOLED Plus, HDR, 90 Hz, enfin bon, tout ce que tu veux. Il est même capable d'enregistrer de la 8K. Son capteur photo, ou bien d'enregistrer à 1900 fps au ralenti, quoi, ce qui est, on ne sait pas à quelle résolution, mais c'est quand même assez fou. Et tout ça pour un prix qui est même pas cher de $430 au lancement en Chine, ce qui est assez hallucinant, je trouve.
Ah, effectivement. J'ai testé Angry Birds AR, réalité augmentée sur l'iPhone, là.
Cool.
Ouais. Qui est très sympa. Et franchement, c'est hyper marrant d'avoir la scène de jeu où tu peux tourner autour à 360, qui est cette espèce de montage où tu dégommes les cochons. C'est comme à l'ancienne, hein, c'est gratuit, mais sans réalité augmentée, et ça fonctionne très très bien. Donc ça donne vraiment une saveur complètement dingue à ce jeu que je pensais vraiment relégué aux oubliettes. Par contre, mais qu'est-ce que ça chauffe, quoi. C'est horrible, le smartphone chauffe en vraiment quelques minutes d'utilisation. Donc je comprends qu'on puisse se poser les questions à ce niveau-là. On enchaîne. Tiens, j'ai envie, pour présenter cette news, de te demander comment s'appelle le chien de Jean-Claude Van Damme.
Toby.
Il s'appelle, oui, Toby. Toby Aware. Guillaume, qu'est-ce que c'est que cette news?
Et bravo, très bien placé. Et oui, bah oui, parce que il faut rester Toby Aware, mais Toby avec deux i, puisque c'est la boîte qui fabrique des capteurs de suivi du regard. Alors, tu vas dire, ok, c'est super, c'est pas très nouveau. Sauf que là où ça peut devenir intéressant, c'est que Toby fait aussi ils peuvent aussi utiliser des capteurs qui sont pas forcément les leurs, et en particulier les capteurs compatibles Windows Hello, et utiliser donc les suivis de regard et la détection de visage. Bah, de manière assez maline pour augmenter les fonctionnalités des PC, et je trouvais ça plutôt sympa. Donc il y a tout un nom qui s'appelle le Yoga de A940 de Lenovo, qui a donc plus que le Windows Hello, qui est carrément le truc Toby, et qui l'utilise assez intelligemment, puisque, et ça c'est vrai que c'est un truc que moi j'aurais aimé voir arriver sur un petit peu partout. Donc il est capable de savoir si tu regardes l'écran ou pas. Si tu le regardes pas, ben, l'écran, pour préserver ta vie privée, se brouille automatiquement, ou alors il peut s'éteindre pour économiser l'énergie. Et puis si tu as plusieurs écrans, ben, en fait le curseur de la souris se déplace d'un écran à l'autre selon là où tu regardes. Il peut déplacer aussi des fenêtres, et donc il y a des petites fonctions fonctionnalités comme ça qui sont très intéressantes. Moi, je trouve effectivement que avoir un suivi de regard et permettre de bah, t'as pratiquement plus besoin de souris, tu sais, tu regardes là où tu veux cliquer, tu cliques. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant. Et bon, voilà, c'est pas toujours pas arrivé dans le grand public, mais peut-être qu'avec des tout un nom comme le Lenovo, là, ça, c'est un passe d'arrivée. Donc c'est plutôt très cool, je trouve.
Des chouettes évolutions, effectivement. Un petit mot autour de propositions de Samsung pour satisfaire les générations qui ont été bercées au VVS, c'est-à-dire le Vertical Video Syndrome, Guillaume.
Le Vertical Video Syndrome n'existera peut-être plus demain, parce que Samsung va, donc dans sa nouvelle gamme de télévision, il a montré le Cero. Alors le Cero, écoute, c'est une télévision. Ce n'est pas une télévision verticale, mais c'est une télévision qui peut se mettre à la verticale. C'est une télévision qui peut tourner, et ben, en gros comme une tablette, quoi. Ce qui fait que, effectivement, les gens qui ont des vidéos qui ont été filmées en portrait, il y en a beaucoup, même si c'est mal, je le rappelle, pourront donc projeter directement les vidéos verticales sur sur le téléviseur, et ce sans aucune perte. Donc voilà, c'est l'aboutissement du VVS, c'est la télévision adaptée au VVS. Je sais pas, est-ce que ça veut dire que l'humanité est maudite, et je sais pas, peut-être, ou alors peut-être que c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses?
La particularité, c'est que ça peut pivoter, hein, en fait, parce que des écrans qui sont positionnés à la verticale, il y en a plein en boutique, il y en a plein un peu partout. Mais là, effectivement, la promesse, c'est de pouvoir switcher, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est ça, oui, ça pivote. Ouais, tout à fait.
Je vais probablement te surprendre, mais je suis de moins en moins gêné par ça, notamment des vidéos avec mes enfants, etc. Je suis de moins en moins gêné parce que les fois où je re-regarde une vidéo qu'on a faite sur un écran format paysage, quoi, horizontal, sont rarissimes. C'est-à-dire qu'on utilise très très peu la vidéo, enfin une télé pour regarder des vidéos comme ça. Je me rends compte qu'on regarde essentiellement avec des tablettes ou des smartphones, et donc ça nous gêne plus autant que ça au quotidien. Il y a un problème un peu conceptuel et philosophique, mais au quotidien, c'est plus si gênant que ça.
Bon. Bah écoute, je pense que ça, grâce à ça, ce sera plus du tout gênant. Non. En fait, le but, c'est aussi d'encourager les gens qui ont des vidéos qui sont donc filmées sur téléphone mobile, ouais, à les partager sur écran, puisqu'il n'y a plus de pertes, en fait. Hein,
tout à fait. Mais ça peut être d'ailleurs un cadre créatif plutôt intéressant, hein, d'ailleurs, au départ.
Ouais. Bah écoute, ouais. Non, mais ça, c'est un gadget qui peut-être sera intéressant, à la différence du, tu sais, du téléphone batterie, ou de la batterie téléphone Energizer, qui est donc, souvenez-vous, c'était au MWC, au dernier MWC, ouais, une Energizer avait sorti un téléphone avec une batterie de 18 000 mAh, qui était formidable, sauf qu'il pesait environ 1,5 kg. Ouais. Et ben, ce truc-là, en fait, n'était pas un vrai produit, c'est juste une preuve de concept, et il y a eu une campagne Indiegogo pour voir à quel point le monde avait besoin d'un tel téléphone. Et donc, ils avaient quand même demandé 1,2 million de dollars, de manière plutôt optimiste, et c'était un prix qui allait avoisiner les 550 dollars quand même, hein. Et donc, ben oui, la campagne Indiegogo s'est conclue, et elle s'est conclue avec 15 000 dollars de promesses. Inutile de dire que ce produit ne verra jamais le jour. Désolé pour ceux qui avaient été hypés, j'en ai vraiment désolé.
On aurait pu se dire que dans certains environnements professionnels, etc., ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est qu'avec les technologies de fast charge maintenant, je vois pas trop l'intérêt de gonfler la batterie comme ça, mais bon.
Ben, t'es pas le seul, hein.
C'est ça. Manifestement. Je me rappelle, on avait fait des épisodes de Tech Café où on était sur des conférences où tu nous relayais des annonces de petits robots mignons, et ça me faisait vraiment rêver, cette histoire. Est-ce que t'as des news là-dessus?
Ben oui, les Cosmo, les petits robots Cosmo qui étaient vraiment extrêmement mignons, avec des petits yeux comme ça, très expressifs. Ouais. C'était vraiment très 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 sympa. Ça se vendait d'ailleurs, ça se vend toujours, je pense, à la Fnac. Et ils avaient même fait une deuxième version, donc il y avait les Cosmo, puis il y avait eu les Vector. C'est Anki qui faisait ça, Anki qui faisait aussi d'ailleurs ils avaient la particularité d'avoir commencé, il me semble, avec des voitures, des petites voitures, donc des petites Mattel, quoi, mais autonomes. Donc on pouvait faire des courses de voitures autonomes sur un petit circuit miniature. C'était vraiment vraiment très fort. Et bon, Anki avait levé quand même 200 millions de dollars hein, pour fabriquer tout ça. Ça avait marché. Moi, je pensais que ça marchait parce que c'était quand même des trucs sympas. Cela dit, évidemment, les robots étaient relativement chers et manifestement, ça s'est pas si bien vendu que ça puisque les 200 millions de dollars, il ne reste plus rien. Et Anki est décédé, ce qui veut dire que ça y est, les Cosmos ne se fabriquent plus, les Vectors non plus. Je suppose que ça va devenir collector. Donc, si vous en trouvez aux prochaines soldes, n'hésitez pas.
Et jetez-vous dessus, évidemment. Ouais. C'est étonnant hein, parce que ça me paraît être hyper compliqué de passer à côté d'une bonne gestion commerciale de ça, mais bon, a priori, ça n'a pas fonctionné. On parle souvent, tu sais, des allègements d'applications, Guillaume, qui pèsent de moins en moins lourd ou parfois, quand le développement est pointé du doigt, qui sont alourdis au contraire. On a parfois des applications qui font à première vue peu de choses et qui pourtant pèsent beaucoup. Là où on a quelque chose d'acquis dans notre esprit, c'est que les systèmes d'exploitation, donc Windows, macOS, etc., ça pèse forcément assez lourd comparé à des applications classiques. On n'est pas sur des jeux de PlayStation 4, mais quand même. Et par contre, la tendance, c'est plutôt de voir un petit peu le poids de ces OS qui est allégé, et le code est souvent revu, et on constate que dans le temps, la part prise pour l'OS peut être un petit peu diminuée. Qu'est-ce qu'il en est sur les dernières news que tu as du côté de chez Microsoft ?
Oui, on peut s'attendre à ça, sauf chez Microsoft, manifestement, hein, puisque le foutage de gueule de la semaine, c'est Microsoft qui, tranquillement, passe le stockage, donc la quantité d'espace disque dur minimale pour avoir la nouvelle version majeure de Windows, la version d'octobre, la version de mai, pardon, qui passe de 16 à 32 gigas. Donc si vous n'avez pas 32 gigaoctets d'espace libre, vous ne pouvez pas installer la mise à jour. Bon. C'est du foutage de gueule. Moi, ça m'énerve prodigieusement, ce genre de truc. Alors évidemment, la plupart des gens s'en foutent, puisqu'ils ont un disque dur, là, qui a 500 gigas, 1 tera. Bon, évidemment, vous vous en foutez. Cela dit, il existe encore à la Fnac des ordinateurs qui se vendent avec 32 gigas de SSD.
Bien sûr.
Voire avec 64. Mm-hmm. Hein. Et ça veut
et
dire
pour
quoi
plein ça d'usages, ça suffit. Enfin, soyons clairs.
Exactement. C'est des machines qui ont été marketées comme étant des petits notebooks, des petits trucs pour les étudiants, des petits trucs pour ceux qui n'ont pas des gros besoins. Et effectivement, ça suffit 32 gigas en réalité. Ça suffirait très largement pour énormément de choses. Mais manifestement pas pour installer Windows. Donc il y a actuellement des ordinateurs à la Fnac qui se vendent avec 32 gigas, des ordinateurs même relativement chers qui se vendent avec 64 gigas, dont tu peux pas utiliser le disque dur, puisqu'il faut le réserver au moins 32 gigas pour ton tour. Ça veut dire que tu achètes un truc 64 gigas, tu as 50 gigas d'utilisable au maximum sur ton, voire même moins hein, sur ton truc, et tu peux pas en utiliser parce qu'après il faut avoir 32 gigas pour la mise à jour. Donc ça veut dire qu'il y a actuellement en vente une grosse quantité d'ordinateurs qui sont instantanément devenus obsolètes, juste parce que Microsoft ne sait pas gérer ces putains de mises à jour. Mais ça sort d'où ?
Alors,
qu'est-ce qui peut prendre autant de place dans un putain de système d'exploitation ? Je comprends pas.
Le point important, parce que je suis sûr qu'on va l'avoir dans les remarques, et donc il faut être précis sur cet aspect-là des choses, on n'est pas en train de dire que Windows 10, dans sa mise à jour, va peser 32 gigas, mais le minimum requis demandé par Microsoft pour installer Windows 10, en tout cas dans sa nouvelle version, si je dis pas de bêtises, hein, ce sera 32 gigas. Donc ça veut pas dire que les 32 gigas sont pris, mais s'ils demandent 32 gigas, c'est bien parce que ils vont vraisemblablement les exploiter à un moment ou à un autre, ou que ça peut être bloquant d'avoir en dessous. Bon, ça...
Alors, j'espère qu'il va y avoir la possibilité de... Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir la possibilité de déplacer une...
Supprimer les fonds d'écran.
Une partie des données sur... supprimer les fonds d'écran, exactement, puis les MP3. Non, mais c'est... Si tu veux, à un moment, il me semblait qu'il y avait la possibilité de brancher une clé USB supplémentaire pour déplacer des fichiers. Je sais pas comment ils vont se démerder, mais il faudra qu'ils m'expliquent comment ils vont faire, ce qu'ils vont dire aux gens qui ont 32 gigas sur des netbooks ou des tablettes. Enfin, j'espère qu'ils ont pensé à une manière quand même de pas les laisser sur le bord de la route, quoi, parce que ça fait quand même vraiment, vraiment fort. Quoi.
Est-ce qu'on a des fonctionnalités révolutionnaires en échange ?
Je sais pas, un mode dark ?
Peut-être un mode dark.
Partout, généralisé ?
C'est possible, c'est peut-être ça qui pèse du poids, effectivement. Allez, tu nous fais toucher du doigt le vrai futur, Guillaume, s'il te plaît, avec des implants là.
Oui, c'est des implants cérébraux. Donc c'est un article de Nature qui détaille le développement d'un implant cérébral qui permet de faire parler les gens qui ne peuvent plus parler. Et c'est assez, la manière dont il le fait est assez impressionnante parce que tu pourrais te dire, il suffirait, entre guillemets, hein, de détecter les mots auxquels tu penses et de les traduire donc en text-to-speech, quoi, avec un ordinateur. Sauf que c'est en pratique, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à détecter les mots, on ne sait pas à quoi tu penses, même, bon, c'est pas possible. Donc, sans se décourager, il y a des chercheurs qui se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cartographier avec des implants la manière dont tu penses faire bouger ta bouche, faire bouger ta langue, faire bouger ta mâchoire. Mmh. Et donc, on va traduire ces signaux-là, qui sont les signaux avec lesquels tu sollicites ta bouche, ton appareil vocal, et on va simuler l'appareil vocal, et on va en déduire quels sons en sortiraient. Et le plus fou, c'est que ça marche à peu près. C'est-à-dire, c'est loin d'être parfait, mais quand même, alors d'ailleurs, il y a un petit extrait sonore qui montre à quel point c'est imparfait, mais qui est quand même impressionnant parce qu'on reconnaît quand même une phrase. Bon, voilà, c'est évidemment, on a l'impression que le mec a la bouche pleine de purée, mais globalement, c'est quand même une phrase avec des mots et on peut deviner ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, dans 70%, les gens devinent ce que ça veut dire. Pourvu qu'ils aient le choix de mots de soi. Enfin, bon, globalement, avec quelques aides, on arrive quand même, dans la majorité des cas, à comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est assez fou, parce que voilà, c'est quand même une manière qui permettrait à des gens qui ont perdu la parole par, je sais pas, des attaques, des maladies neurodégénératives, de la retrouver, quoi. Et peut-être aller encore plus loin, je sais pas, dans le futur, éventuellement, pourquoi pas, faire de la transmission de pensée, je sais pas, des trucs assez fous. Pour l'instant, bien entendu, c'est pour le secteur médical et c'est déjà très encourageant.
Eh ben écoute, très bien, merci beaucoup Guillaume, effectivement c'est génial de voir que la technologie avance aussi à ce niveau-là. On a fait le tour des news qu'il fallait connaître et dont il fallait avoir pris connaissance pour être calé sur l'actu tech. On conclut et on enchaîne avec nos bonus. Les bonus, c'est des recommandations, des coups de cœur, des coups de gueule, des choses qui nous ont marqués. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour ce 128e épisode de Tech Café dans les bonus ?
Ben moi, c'est un petit animé sans prétention, mais très mignon, qui s'appelle High Score Girl. Alors, je ne le savais pas parce que je ne l'ai pas lu, mais en fait, c'est l'adaptation d'un manga de Rensuke Oshigiri, qui est donc un manga qui est sorti, je ne sais pas s'il est sorti en France, mais je ne l'ai jamais vu. Et bon, sur Netflix, donc, il y a cette petite série qui fait 12 épisodes de 20 minutes, donc c'est quand même assez court. Et c'est l'histoire d'un gamin qui est nul à l'école, qui est nul en sport, qui est un petit peu nul en tout, sauf qu'il joue à des jeux vidéo, il y joue très très bien. Et donc, c'est dans les années 90, et dans cette salle d'arcade, donc il rencontre une fille, Akira, qui est donc dans sa classe, et qui est extrêmement forte, et il se fait latter la gueule, à tous les sens du terme, par cette fille. Et donc, on suit donc cette petite romance à l'école et au collège. Et donc, c'est très mignon, c'est sans prétention, mais surtout, c'est l'occasion, c'est le prétexte hein, pour se replacer dans le contexte du jeu vidéo et de l'arcade au Japon dans les années 90. Et donc, c'est bourré à ras-bord de références à tous les jeux de l'époque, et des trucs assez pointus, hein, même d'ailleurs des combos sur Street Fighter. Street Fighter est vraiment au centre d'ailleurs de la première saison. Et c'est très sympa, ça permet de se remettre un petit peu, voilà, c'est pour les nostalgiques, clairement, c'est pour ceux qui ont connu un petit peu cette époque en priorité, je suppose. Donc c'est très agréable, la première saison fait 12 épisodes et je crois qu'il y a 3 OAV qui sont disponibles sur Netflix, et j'ai appris récemment qu'il y aura une deuxième saison que je regarderai probablement, parce que ça suit, sur plusieurs années, ça suit l'évolution de l'arcade et du jeu vidéo au Japon, ce qui est assez intéressant, donc si ça vous plaît, High Score Girl.
Eh ben merci Guillaume, le lien est dans les notes de l'émission, mais c'est sur Netflix. Moi j'avais deux petits clins d'œil. Le premier, c'est quelque chose que j'avais pas fait, que j'avais dit que je ferais dans les précédents épisodes. C'est Alexis qui est dans le groupe Telegram de Tech Café, qui a développé une extension pour Firefox et Android, une extension pour Firefox pour les utilisateurs d'Android, qui en gros vous permet de récupérer du texte que vous avez qui peut être long sur Firefox sur votre smartphone, simplement avec un QR code. Donc voilà, je voulais juste faire le petit clin d'œil et vous mettre le lien dans les notes d'émission si vous vouliez en savoir plus, parce que je trouve que l'idée est sympa et que quand un auditeur de Tech Café partage ce genre de choses, ça mérite d'être relayé. Et je ne pouvais pas m'empêcher de te demander ton avis, Guillaume, parce que je pense que tu as forcément dû voir la bande-annonce de Sonic, le film.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande-annonce,
Oui.
Guillaume ?
Or déjà, personne n'a demandé un film Sonic, hein, c'est moi, ou personne n'a jamais demandé un truc comme ça, bref. Mais bon, donc le film Sonic, on n'a pas demandé, j'ai vu la bande-annonce, et en fait, je suis catastrophé, parce que non mais il fait peur, en fait.
Ouais, mais alors on l'avait déjà vu, le personnage, il avait déjà été dévoilé, effectivement. Alors moi, c'est aussi pour ça que je voulais rebondir, c'est qu'il y a un consensus sur le fait que le personnage est moche, raté et effrayant. Moi, j'ai vu la bande-annonce, en fait, j'ai été vachement surpris par la bande-annonce, puisque je m'imaginais un environnement très 3D, je m'étais pas plus renseigné que ça, et je m'imaginais que c'était un long-métrage, mais intégralement en images de synthèse. Et mon sentiment, c'est que, alors oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais que Sonic, le personnage, évidemment le personnage
central. Il est humanoïde. Et il est devenu humanoïde.
Oui, mais
c'est
pas surprenant dans le film, j'ai l'impression, malgré tout. Il y a beaucoup d'acteurs, dont Jim Carrey. Mais effectivement, il a un format humanoïde et il est assez allongé, etc. Moi, j'avais un peu envie de passer un petit appel à laissons-lui le bénéfice du doute, parce que malgré le film a l'air marrant, il a l'air pas trop mal fait. Moi, je pense que ça mérite de lui laisser sa chance.
Mais t'as dit ça parce qu'il y a Jim Carrey?
Un peu. Non, parce que
on adore tous Jim Carrey. Bon, mais non, mais c'est pour te dire à quel point c'est hallucinant, c'est que dans minute 2 que la bande-annonce est sortie, il y a des mecs sur Internet qui ont retouché le personnage du film pour le rendre tout à fait acceptable. Il suffit qu'il ait des petites jambes comme dans le jeu vidéo, et qu'il ait un aspect plus rond, et qu'il ait des plus gros yeux comme dans le jeu vidéo. C'est quoi ces yeux humanoïdes? Il a une taille humaine. On dirait qu'il y a un mec avec une. Non mais tu sais, on dirait qu'il y a un mec avec un costume. On dirait même pas un truc en 3D.
C'est vrai.
Tellement il a un truc humanoïde. Mais c'est affreux. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le jeu. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. En 2 minutes, et les mecs, ils ont fait un design 10 fois mieux. Je comprends pas.
Laissons-lui le bénéfice du doute. Enfin, s'il te plaît.
Ah, moi, enfin, surtout le doute.
Allez, on en reparlera quand il sera sorti. Peut-être qu'on aura eu l'occasion de le voir. Ou quand il sortira, peut-être sur les plateformes de vidéo, parce qu'on n'aura pas envie de le voir au ciné. Je pense qu'il peut être pas mal au ciné. Tu sais, j'ai revu beaucoup mon jugement sur le film. Bon, à la base, je suis très, très, très bon public, hein, pour les films. Mais j'avais vu Nicky Larson. Que j'ai trouvé absolument génial et sur lequel je me suis vraiment beaucoup marré.
Je pourrais pas te taper, je l'ai pas vu.
Il est extraordinaire. Si t'as l'occasion, bon, de toute façon, tu le verras dans pas trop longtemps.
J'ai entendu des critiques très mitigées.
Alors, moi, j'ai vu des critiques extrêmement négatives, et en fait, s'en est suivi un flot d'adhésion de par la fréquentation et de la part des retours des personnes qui allaient le voir. J'ai trouvé ça, franchement, absolument génial et très bien fait. Donc, depuis, j'ai un peu le syndrome Nicky Larson, c'est-à-dire laissons-lui le bénéfice du doute. Guillaume,
c'est beau, c'est inclusif.
Merci beaucoup pour toute la revue tech que tu as pu faire pour cette semaine, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut discuter avec toi pour souligner à quel point on trouve que le personnage de Sonic a l'air d'être vachement bien dessiné?
Je pense que ça va être la grosse discussion sur Telegram, ça, le film Sonic, forcément.
Donc on te retrouvera sur Telegram. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur mon site guillaumevendée.fr et sur tous les liens que vous y trouverez. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café, normalement dans une semaine, comme toutes les semaines, donc pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous.